Lancé. Je vous laisse le micro, même si on aurait pu faire ça a cappella.
Oui, non, Capella, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 3, 4, 5, 6e débat autour de la question des médicaments. Je voulais saluer la présence de Daniel Arsicault, représentant vieil ami de la maison, la MGEN, et ses opérations de diffusion. Remercier, si vous ne le connaissez pas, notre ami Daniel Chevalier de l'ARS, qui nous a beaucoup aidés. Jean-Claude Lecron, du pôle Biologie Santé. Et là-haut, peut-être qu'il achète un billet de train lui aussi. Voilà, donc juste d'un mot, vous remercier d'être là. Vous rappelez que nos conférences, débats sont enregistrées et, comme on dit en français, podcastées. Ça fait partie des surprises positives de notre action ces 2, 3 dernières années, puisque c'est 20 000 personnes par mois maintenant, ce qui est un peu, enfin, ce qui nous surprend. Donc on va devenir chaîne de télé et de radio, si j'imagine. Et puis vous dire d'un mot qu'on a voulu traiter la question du médicament avec des personnalités du monde scientifique, du monde de la connaissance, du monde des praticiens, pour faire en sorte que ce sujet qui est souvent dans les médias pour des raisons ou dans des conditions qui ne sont pas forcément tout à fait complètes pour nos concitoyens, est depuis quelques années assez maltraité, en deux mots. Mais on retrouve les mêmes principes qu'on a connus assez récemment sur les questions d'énergie, sur les questions d'environnement, où en fait le côté émotionnel, le côté spectaculaire, voire parfois morbide, est mis en avant et on oublie le travail de fond. Et puis juste d'un mot pour vous dire que par rapport au forum qu'on organise depuis 3 ans, on se rend compte qu'en fait il y a des thèmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont des thèmes que moi j'appelle pionniers, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et vu ce qu'on a entendu toute la journée d'hier, on se rend compte que par rapport aux médicaments, je ne sais pas comment on va appeler, produits, usage courant, non seulement nos concitoyens en savent peu, mais ils en savent peu. Je crois qu'il est il est important de revenir aux fondamentaux et surtout de remettre sur la place publique un certain nombre de données objectives, de données aussi qui ont un lien fort avec ce que les champs de la science dite dure appellent les SHS. Et nous, on est très fiers de mettre en scène depuis très longtemps les sciences de l'homme et de la société, la politologie, les géographes, les historiens, parce qu'il nous semble absolument indispensable d'éclairer nos débats de société, pas que par la technologie, pas que par l'aspect scientifique au sens où on l'entend classique, donc des sciences dures. Donc cette mise en scène, elle a été permise par tout un tas de travaux faits depuis 15 ans et récemment nous ont rejoint les membres du pôle biologie santé de Poitiers, Jocelyn Bescon qui est là, Jean-Claude Lecron qui nous ont aidés à concocter une petite exposition qui est maintenant en ligne pour tout le monde, partout en France, mais également essayer de balayer le plus possible cette question du médicament pour essayer d'en dire un peu plus à nos concitoyens. Nos médias locaux nous suivent quasiment tous les jours depuis la semaine dernière avec interviews, reportages, et c'est pour nous indispensable. Je pense que c'est un thème sur lequel on sera amené à revenir dans les années à venir. Et donc, on poursuit ce travail d'investigation et de rapport au public. Donc, merci à Vincent Hulin, qui connaît bien la maison et qui est attaché à cette notion de connaissance et de diffusion, d'animer ce soir ce débat. La parole est ouverte, tout est possible. Et je vous remercie encore à tous les trois d'être là.
Merci beaucoup pour cette présentation. Juste pour le confort de tous, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones quand vous sortirez de cette salle. Juste pour qu'il se chauffe la voix et qu'on fasse un peu les essais micro, je vais juste vous demander en quelques secondes juste de vous présenter et comme ça sera l'occasion qu'on puisse tester votre voix. Juste un petit mot, juste nous dire bonsoir dans le micro pour voir si ça marche bien. Allez-y les uns après les autres et chacun.
Bonsoir.
Bonsoir, Claude Le Pen, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine.
Que mon bonsoir était suffisant.
Non, parce qu'il
non. A priori,
ouais.
Non.
Poursuivez votre bonsoir.
Alors, bonsoir, est-ce que là ça va mieux? Vous m'entendez mieux?
Bonsoir.
Et, ben, ça a l'air de bien se présenter. Alors, donc, on va faire dans un premier. dans un premier temps, on va vous écouter les uns les autres. Et puis, moi, j'ai préparé déjà des questions pour vous cuisiner un petit peu. Et puis, bien sûr, on le disait à l'instant, la parole est libre. Et donc, on va pouvoir vous poser des questions dans le public. Il y a un PowerPoint qui a été présenté. On va le voir d'ici un tout petit moment. En attendant, je vais demander à Sylvie Finzan de bien vouloir peut-être voir un petit peu avec vous. Vous êtes anthropologue. On va revenir un petit peu sur... Ben, les médicaments et nous les hommes, comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. Et puis on va en savoir un peu plus sur vos recherches aussi, parce qu'on ne vous connaît pas suffisamment.
Alors, peut-être déjà la première chose que je peux dire, c'est que l'anthropologie, qui n'est pas nécessairement une discipline qui vous est très familière, elle se donne pour principe de ne pas juger ce qu'elle étudie, ce qu'elle observe. Donc, dans le contexte des médicaments et des usages des médicaments, pas plus qu'ailleurs, elle ne porte de jugement sur la manière dont les gens se comportent. Alors, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de notions qui sont employées par le milieu médical, qui sont pour lesquelles l'anthropologue est un petit peu rétif parfois, comme les notions d'observance ou les notions de mésusage, qui sont des notions qui comportent un jugement de valeur. Et donc là, c'est quelque chose que l'anthropologue se refuse à faire. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile de porter des jugements. Notre but, c'est beaucoup plus de comprendre les logiques des comportements, de comprendre les logiques symboliques et culturelles qui sous-tendent les comportements et les usages en matière de médicaments. Et je vous donne un exemple. Par exemple, un patient d'un monsieur d'origine musulmane qui va voir un cardiologue. Ce cardiologue lui remet une ordonnance et ce monsieur, au lieu d'aller à la pharmacie acheter les médicaments qui sont écrits sur l'ordonnance, eh bien, il fait deux trous dans l'ordonnance, il passe une ficelle et il place autour de son cou l'ordonnance pour porter l'ordonnance contre son cœur. Alors évidemment, face à ce genre d'usage, c'est évidemment pas de la bonne observance du point de vue du médecin, on est d'accord, mais en même temps, on n'est pas du tout face à un usage qui pourrait être caractérisé comme on le fait d'habitude avec la non-observance, c'est-à-dire que c'est ni de l'oubli, ni de la désinvolture, ni un manque de respect pour le savoir du médecin. Au contraire, ce monsieur a une grande déférence pour son médecin. Donc on est dans tout à fait autre chose, on est dans une autre interprétation de l'ordonnance et de la prescription. Alors, sur la question des médicaments en général et des médicaments prescrits, d'abord, je vous parlerai un peu d'automédication après. Il y a déjà un certain nombre de discours qui, je crois, doivent être pondérés. Comme par exemple le discours qu'il y a sur la consommation médicamenteuse en France, où vous avez tous lu un certain nombre d'articles parlant de la consommation très importante en France, de la surconsommation, du fait que les Français seraient les champions de la consommation médicamenteuse. C'est le terme qu'on retrouve dans tous les coins d'articles. Je voudrais dire là où je suis un petit peu gênée, c'est qu'en toute rigueur, il me semble très difficile d'affirmer qu'il y a une forte consommation en France dans la mesure où on se base sur les chiffres de vente en officine. Or, rien ne dit que si les médicaments sont achetés, ça ne veut pas dire qu'ils sont consommés. Et de fait, l'observation montre qu'un certain nombre de médicaments sont ramenés chez soi, posés sur un meuble, parfois laissés là quelques jours, parfois les symptômes cèdent spontanément et le médicament est rangé dans la boîte à pharmacie ou jeté et il n'est pas pris. Alors c'est très difficile de quantifier ça, hein. C'est bien sûr l'observation lors d'enquêtes qualitatives qui permettent de le voir. Mais là, on est dans quelque chose qui n'est pas de la surconsommation. Et si on se place du point de vue du médecin, on serait plutôt dans de la sous-consommation, puisque la personne n'a pas pris ce que les médecins jugeaient utile de prendre. Donc je crois qu'il faut vraiment être extrêmement rigoureux sur les mots qu'on emploie et voir comment on étaye les affirmations qu'on peut porter aujourd'hui sur les médicaments. Alors, il y a des attitudes diverses. Je ne vais bien évidemment pas vous parler de tous les usages des médicaments, mais quelques grandes lignes qui me semblent importantes de souligner, c'est que certaines attitudes sont liées au discours que peuvent avoir les professionnels de santé ou les campagnes sanitaires et qui vont avoir une incidence dont on ne mesure pas toujours l'importance chez les patients. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple avec les antibiotiques. Vous êtes tous, vous avez tous en mémoire cette campagne sur les antibiotiques qui alertait les patients sur le fait qu'ils consommaient trop de médicaments, trop d'antibiotiques. Donc c'est cette campagne qui s'appelait « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Et ce que les patients en ont retenu, c'est que, en tout cas beaucoup d'entre eux sur le terrain vous disent « Moi j'ai parfaitement compris qu'il fallait pas prendre trop d'antibiotiques. D'ailleurs, quand mon médecin m'en prescrit, dès que ça va mieux, au bout de 2 jours, j'arrête ». Donc là, on est typiquement dans un usage qui n'est pas un bon usage, puisque bien évidemment, la personne en se comportant comme ça a toutes les chances d'accroître les problèmes de résistance qui sont des problèmes majeurs aujourd'hui. Mais en même temps, on se dit que si les personnes réagissent comme ça, c'est que les campagnes ne sont peut-être pas si bien faites, les campagnes sanitaires. Donc il y a peut-être une réflexion à mener aussi sur ce point. Un autre exemple, c'est avec celui des génériques. Vous avez des personnes qui vous disent je suis parfaitement convaincue que les génériques c'est la même chose que les autres, mais quand même quand j'ai vraiment trop mal je préfère retourner au vrai. Alors le mot vrai évidemment laisse rêveur, parce qu'on se dit que quelque part la personne considère que le médicament générique n'est pas un vrai médicament et qu'elle a l'air de considérer un petit peu les médicaments génériques comme des médicaments au rabais, comme un peu des ersatz de médicaments. On a l'impression que les génériques seraient au princeps, un peu ce que les œufs de l'homme seraient au caviar. Mais en fait cette représentation erronée vient aussi parfois des messages que transmettent parfois malgré eux certains médecins. Vous avez un certain nombre de médecins qui sont absolument convaincus et bien informés du fait qu'on a affaire à une molécule parfaitement identique à la molécule du princeps, mais qui, pour se faire comprendre de leur patient, en particulier si le patient a un bagage culturel pas très élevé et qu'il craint que le patient ne va pas bien comprendre, alors ils ne veulent pas employer un terme trop compliqué, ça part d'une bonne intention. Et au moment de rédiger une ordonnance, comme j'ai pu le voir puisque j'ai observé un grand nombre de consultations, disent à leur patient « Est-ce que je peux vous écrire, vous marquer le générique ou est-ce que vous préférez le vrai ?» Et évidemment, en disant ça, ils font passer, malgré eux, le message, comme quoi, même s'ils sont parfaitement convaincus par ailleurs, comme quoi ce médicament ne serait pas un vrai médicament. Donc on imagine mal que le patient puisse lui dire « Oui, oui, pas de problème, je veux bien le faux. » Donc il faut arriver à relativiser les représentations des patients. Alors pour ce qui concerne l'automédication, puisque j'ai effectivement mené des recherches d'une part sur le rapport aux médicaments, aux ordonnances et aux médecins, donc avec en particulier les médicaments prescrits, mais aussi une autre recherche sur l'automédication et les usages de l'automédication. Une chose m'a frappée déjà, c'est qu'on a affaire à une situation très nouvelle, puisqu'il y a une dizaine d'années, beaucoup de gens ne disaient pas qu'ils s'automédiquaient. C'était considéré comme un acte déviant et que les gens qui s'automédiquaient avaient l'impression d'être dans la transgression du pouvoir médical. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas, mais ils le faisaient dans le secret de leur domicile et ils ne le disaient pas à leur médecin. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui... ça fait partie des différentes choses que j'ai pu observer dans ce qui se dit et ce qui ne se dit pas dans la consultation, et qui m'a amené par ailleurs à m'intéresser à la question du mensonge entre médecin et malade. Mais ça, c'est une autre affaire. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que depuis quelques années, les pouvoirs publics ont promu l'automédication pour des raisons essentiellement économiques, puisqu'il s'agissait de faire prendre en charge une partie de leurs dépenses de santé aux patients, aux individus. Et cette situation nouvelle s'est accompagnée de toute une série de politiques publiques, de mesures, comme les déremboursements des médicaments, et ça je pense que mon collègue vous en parlera tout à l'heure. Un certain nombre de médicaments ont été déremboursés en 2008 et puis ensuite d'autres par la suite. Ça s'est accompagné aussi d'une autre mesure qui était le libre accès à un certain nombre de produits pharmaceutiques. Et tout ça, c'est accompagné aussi de recommandations sur le, ce qu'on a appelé les 10 commandements de l'automédication qui ont été publiés sur un certain nombre de sites où il était bien précisé aux gens qu'il fallait faire attention quand on s'automédique et qu'en particulier, d'une part, il fallait le faire que dans des situations bénignes et d'autre part, qu'il fallait bien prendre conscience qu'un médicament qui convient à une personne ne convient pas à une autre et qu'il ne faut pas se refiler les médicaments dans la famille. Alors, bon, tout ça, ça s'est appuyé sur un discours de la responsabilisation du citoyen, de la volonté des usagers d'être acteurs de leur santé, de la compétence, donc toutes sortes de notions qui sont aujourd'hui très importantes dans le contexte de la démocratie sanitaire et qui ont servi un peu de rhétorique à toute cette promotion de l'automédication. Alors bon, on peut s'interroger sur la véritable autonomie, et c'est une question que je me suis posée, qui est laissée aux patients, dans la mesure où il y a une très forte désapprobation de la pharmacie familiale, et où la plupart des discours émanant des autorités sanitaires et des professionnels de santé consistent à dire qu'il ne faut surtout pas aller se servir dans sa boîte à pharmacie, mais qu'il faut aller voir le pharmacien et acheter quelque chose conseillé par le pharmacien. Donc on peut s'interroger sur la véritable autonomie qui est laissée à l'individu, dans la mesure où normalement l'autonomie c'est la capacité de penser, de décider, d'agir. Et donc on se dit, est-ce qu'il est réellement laissé à l'individu cette capacité de réflexion et de décision s'il n'est pas apte à lui-même choisir un médicament dans sa pharmacie. Donc bien évidemment, il devrait y avoir une éducation de l'usager à savoir bien se servir des médicaments. Et ça, je pense que ça devrait faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation du patient. Mais cette diabolisation de l'armoire à pharmacie qui existe aujourd'hui laisserait penser que l'individu serait quelque part un peu inéducable et pas apte à devenir véritablement autonome. Alors parmi les raisons de l'automédication, il y a les raisons économiques, là encore je laisserai mon collègue en parler. Il y a des raisons plus pratiques, où quand il s'agit de petits mots bénins, la personne va simplement répliquer une prescription antérieure. Des raisons plus culturelles, comme l'expansion d'Internet, la généralisation des sources d'information, le contexte de la démocratie sanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font que de plus en plus de gens valorisent le fait de se prendre en charge et de se soigner eux-mêmes. Il y a des dimensions aussi plus sociales et relationnelles, je dirais, comme par exemple le fait de ne pas vouloir inquiéter un proche en lui disant qu'il va aller consulter un médecin et donc la personne va vouloir s'automédiquer un petit peu dans le secret, donc même loin des regards de sa famille. Et puis il y a une raison qui m'est apparue dans ces enquêtes qui tient beaucoup plus à ce qu'on pourrait appeler une évaluation critique du travail médical et à la volonté d'un certain nombre de patients qui ont eu des recours précédents infructueux aux médicaments qui décident de contourner leur médecin traitant. C'est un petit peu, l'automédication devient dans ce cas, dans certains cas, une stratégie d'évitement du médecin avec finalement... quelque chose qui est assez un petit peu surprenant, peut-être un petit peu contre-intuitif, c'est qu'on a tendance à penser, et je l'ai pensé en débutant cette étude, que normalement c'est l'impossibilité de venir à bout d'un symptôme par l'automédication qui va amener les gens à recourir à un médecin. Eh bien on a parfois la situation inverse, c'est-à-dire que c'est parfois le recours précédent infructueux à un médecin à plusieurs reprises qui va amener un patient à décider de se débrouiller tout seul et donc de recourir à l'automédication. Alors on se retrouve avec une situation un peu en miroir où on a un certain nombre de professionnels qui désapprouvent l'automédication en raison de ce qu'ils considèrent être l'incompétence des usagers. Et puis de l'autre côté, des usagers qui vont choisir le recours à l'automédication en raison de ce qu'ils jugent être l'incompétence de leur médecin parce que leur médecin aura mis du temps à poser un diagnostic, il y aura eu un retard de diagnostic par exemple, ou parce que leur médecin sera considéré comme peu compétent et qu'il n'aura, il n'aura pas obtenu de résultat avec les traitements proposés, ou bien parce que le médecin sera jugé être auteur de surprescriptions, et beaucoup de gens qui sont assez réticents devant des prescriptions d'antibiotiques par exemple. Donc finalement, on se rend compte qu'avec cette volonté de quelque part de court-circuiter parfois le médecin, on se retrouve avec l'automédication qui n'est plus seulement un acte pratique, mais qui devient aussi un acte politique au sens où l'usager s'affirme comme compétent et autonome. Alors là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est toujours compétent, mais en tout cas qu'il veut s'affirmer comme tel. Alors, il va essayer de se constituer un savoir sur les médicaments à partir à la fois de ce qu'il aura entendu dire par son médecin ou ses médecins lors de précédentes consultations. Ce savoir, il va le constituer aussi à partir de sa propre expérience, des médicaments qu'il aura eus auparavant, et puis à partir de l'expérience des autres, et notamment de son entourage proche, mais aussi des témoignages qu'il va recueillir sur Internet et sur des forums de discussion. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on se rend compte que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui va aider les gens à essayer d'identifier déjà les symptômes qu'ils ont, les maux qu'ils ont et les médicaments qui pourraient leur convenir. Parmi les autres usages qu'il peut y avoir des médicaments dans le contexte de l'automédication, on se rend compte que parfois les personnes sont très inquiètes des médicaments en fonction des effets secondaires, voire des effets indésirables. Et c'est d'ailleurs une des raisons importantes de consultation d'Internet aussi, de consultation des forums. C'est d'essayer de recueillir l'expérience des autres sur les effets indésirables des médicaments. Mais par contre, on a aussi des gens qui vont utiliser certains médicaments précisément pour leurs effets secondaires, comme par exemple certains psychotropes qui vont être utilisés comme hypnotiques, ou certains antihistaminiques, antitussifs par exemple, qui vont être utilisés qui vont être donnés à un enfant parce que sa mère le juge un petit peu trop excité le soir et pour qu'il arrive à s'endormir. Et on se rend compte que finalement, ça va être un effet indésirable qui va être utilisé précisément parce qu'il va devenir un effet désiré. Donc là, ce sont aussi un petit peu les choses un peu inattendues que l'on peut rencontrer. Alors sur la question de la gestion des risques associés aux médicaments, puisque c'est un enjeu très important dans la question de l'automédication, bien évidemment, la conscience des risques n'est pas nécessairement synonyme de connaissance des risques. On se rend compte que, malgré tout, beaucoup d'usagers essayent de réduire ces risques, essayent de les réduire en développant toute une série de stratégies qu'ils vont adopter pour réduire ces risques de façon qui n'est pas toujours avalisée par le corps médical d'ailleurs. Mais où l'idée, ça va être, par exemple, d'adapter le traitement à la façon dont ils se perçoivent, de modifier les doses en fonction de la manière dont ils se perçoivent, s'ils sont gros, maigres, jeunes, vieux, résistants, fragiles. Et ça va les conduire à modifier les posologies indiquées, par exemple, sur la notice pharmaceutique, ou bien conseiller lors d'une consultation antérieure par un médecin ou conseillé par un pharmacien. Dans toutes ces stratégies, finalement, on se rend compte qu'il y a une volonté souvent d'adapter donc son traitement et qui ça va être une logique qui va un petit peu se heurter à une autre qui va être au contraire de maximiser l'efficacité en prenant le plus de médicaments possible. Donc on va avoir des gens qui vont cumuler un peu et augmenter les doses et d'autres qui au contraire vont les réduire pour les adapter à soi. Alors on a une perception des risques qui est assez variable. On a certaines personnes qui considèrent les risques liés à la nature du médicament, X ou Y, hein, ça va être ce qu'on pourrait appeler les risques en soi. Et puis d'autres personnes qui vont considérer qu'il y a des risques pour tel médicament par rapport à ce qu'elles sont capables de supporter. Donc ça va être les risques pour soi. Alors je vais vous donner deux exemples et je terminerai là. D'usages qui sont assez inattendus et qui sont pourtant qui ont été observés auprès de gens qui ont un certain bagage culturel, une certaine connaissance dans le domaine médical. C'est le cas d'une dame qui est dans le milieu paramédical et qui, lorsqu'elle a un médicament, alors que ce soit un médicament prescrit ou un médicament acheté en automédication, va voir un radiesthésiste, et le radiesthésiste, avec son pendule, va regarder si le pendule tourne au-dessus de la boîte de médicaments. Et en faisant ça, elle va s'assurer que le médicament lui convient bien. Alors, bien évidemment, on est dans quelque chose qui est très loin d'un comportement rationnel, nous sommes bien d'accord, mais ce que cette femme fait en recourant au radiesthésiste, c'est de vérifier que ce médicament lui convient bien à elle. C'est-à-dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train d'obéir, ou elle croit ainsi obéir, aux recommandations qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prenez surtout pas un médicament qui a été conseillé à quelqu'un d'autre, parce que, à vous, il peut ne pas convenir. Et donc, c'est l'idée de la personnalisation du traitement, finalement, qu'on retrouve à travers ce genre d'usage. Un autre exemple, c'est un monsieur qui, c'est un dessinateur industriel, qui a des nausées, et qui envisage de prendre un médicament, un sirop anti-émétique qu'il a dans son armoire à pharmacie, et qui se dit qu'il peut y aller sans problème parce qu'il a essayé ce sirop sur son chien. Alors, bien évidemment, là encore, on est dans un usage qui est, qu'on peut considérer tout à fait fâcheux, mais il est dans une espèce de vérification, parce que là encore, on lui a dit que certains médicaments pouvaient comporter des risques ou pouvaient comporter des effets indésirables, donc il le vérifie. Et son idée là, on voit bien que dans ces deux types d'usages que je vous cite, on retrouve l'idée du risque lié à la nature du médicament proprement dit. C'est le cas de ce sirop émétique, hein, aux yeux de ce monsieur. Et puis l'idée du risque pour soi, c'est-à-dire de l'inadéquation d'un médicament pour une personne donnée. Et on retrouve cette logique avec l'exemple que je vous ai donné de la dame et du pendule. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors on verra tout à l'heure, parce que moi il y a des médecins de campagne qui m'ont parlé de pendule au-dessus des ordonnances. Donc on verra tout à l'heure si du côté de Chauvigny, il y a certains patients qui mettent un pendule au-dessus d'une ordonnance pour voir. Je vous ai vu noircir votre feuille, je vous ai vu de temps en temps faire la moue ou un petit sourire en coin. Donc je pense que vous allez avoir plein de choses à nous raconter. Juste avant de donner la parole à Claude Le Pen, un petit mot quand même, puisque dans votre parcours on n'en a pas parlé, mais vous avez beaucoup voyagé, notamment en Afrique. Est-ce que juste sur cet exemple-là de ce que vous avez pu voir sur le rapport du médicament que vous avez pu vivre sur place à l'époque, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ?
Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai effectivement, dans un lointain passé, travaillé en Afrique de l'Ouest sur les usages des médicaments, mais aussi sur le recours aux institutions spécialisées dans la prise en charge de la maladie, les guérisseurs, les devins, les dispensaires. Et donc, ce qui était très intéressant, c'était de voir le recours à une offre plurielle, hein, ce qu'on appelle le pluralisme médical qui était présent. Et j'étais très frappée de voir que dans le cas des médicaments traditionnels, les gens suivent très scrupuleusement les prescriptions des remèdes proposés par les guérisseurs, et en particulier se fie à un système symbolique numérique qui est répandu dans un grand nombre de sociétés africaines, en vertu duquel le 3 est le chiffre des hommes et le 4 est le chiffre des femmes, et où donc les cures vont suivre cette codification, hein, et l'efficacité sera supposée n'être réalisée que si les gens prennent par exemple 3 fois tel médicament ou se lavent 3 fois pour un homme et 4 fois pour une femme. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps ici de vous expliquer le sens social de ce symbolisme numérique. Donc simplement, là, on retrouve l'idée qu'il faut vraiment que la posologie soit bien adaptée à soi en tant qu'homme ou femme. Et on retrouve cette logique dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit peu de l'identité. Et puis par contre, pour ce qui est des médicaments de la biomédecine, et qui sont présents parfois dans les dispensaires, par exemple, dans les villages, eh bien, les personnes ont plus tendance à être dans le cumul, et dans l'idée que plus on en prend, mieux ce sera. Et donc à vouloir demander beaucoup de notésine pour l'onchocercose, beaucoup de quinine pour le palu, beaucoup d'antibiotiques pour être plus fort. Et là, on est plus dans une accumulation des médicaments.
Très bien, merci pour la réponse. Et puis, il y aura probablement des questions pour vous tout à l'heure. Après l'anthropologue, l'économiste, merci d'avoir répondu présent à cette invitation, Monsieur Claude Le Pen. Économiste de la santé, professeur, directeur du DESS économie et gestion des organisations
Master
de santé.
Master 2, on dit maintenant, c'est fini.
Master 2, oh, ah, oui. Autant pour moi. Vous savez quoi, je vais vous laisser vous présenter, j'ai peur.
Le DESS est fini depuis un certain temps maintenant. Là. Et donc effectivement, alors moi mon point de départ, il sera presque le point d'arrivée de Sylvie, c'est de dire au fond, alors deux, trois idées. Premièrement, le XXe siècle a été le siècle de la pharmacothérapie. C'est-à-dire au cours du XXe siècle, et peut-être que c'est fini. C'est-à-dire, c'est pas sûr que le XXIe siècle soit à ce point. Ça peut être le siècle de la génétique, le siècle de l'ADN, hein, et des produits recombinants, on va y venir. Mais ce qui est certain, c'est que le XXe siècle a été un siècle tout à fait extraordinaire sur le plan de la thérapeutique. D'ailleurs, les gains d'espérance de vie au XXe siècle ont été sans commune mesure avec ceux qu'on a réalisés au XIXe siècle, par exemple, des siècles avant, c'est-à-dire pratiquement nul. XIXe siècle, s'il y a eu des gains d'espérance de vie en raison de la montée de l'hygiénisme et de la santé publique. Donc, mais les gains d'espérance, disons, il n'y a pas de commune mesure entre ce qui a été réalisé au XXe siècle. Et la plupart, ça a commencé au début du siècle, la synthèse de l'aspirine par Hoffmann pour Bayer, c'est 1890. La découverte du mécanisme d'action de l'aspirine, c'est le prix Nobel Wein dans les années 60-70. Donc ça s'étend, et puis les autres produits dérivés de Wein, c'est après. Donc ça s'étend vraiment sur tout le siècle, et on fait des découvertes majeures en 1920, l'insuline, en 1930, en 1940, la pénicilline. Donc ça c'est tous les les neurosciences et tous les neuroleptiques dans les années 50, hein, avec la France qui est un des pays qui les met au point, de Nicker, etc. Donc tout un ensemble de progrès très importants qui s'est étalé un petit peu sur ce siècle. Ça continue, y compris aujourd'hui, avec des concepts nouveaux, notamment ce que disait la production de grosses protéines par des techniques de DNA recombinant, c'est-à-dire de manipulation de production par des organismes vivants modifiés génétiquement. Voilà, donc c'est encore une fois quelque chose qui est historiquement situé. Alors le médicament est situé, mais le remède ingéré, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est au contraire, dans la salle à côté, vous avez des facsimilés d'Avicenne qui montrent comment dans l'époque arabo-andalouse il y avait déjà, et puis bon, avant avec Galien de Pergame ou Hippocrate, des registres entiers, une pharmacopée extrêmement existante, dont l'enseignement, dans les termes même d'Hippocrate ou de Galien, a continué dans l'enseignement de la médecine jusqu'au XIXe siècle. Donc quelque chose de très présent dans la culture, y compris la culture occidentale. Donc je crois que c'est ça un des problèmes du médicament, c'est le choc entre un objet approprié par la science et puis un objet inséré dans nos cultures. Voilà. Et donc dans une et au fond l'actualisation ou le choc, disons, de ce bien, je dis, approprié par la science, c'est-à-dire au fond soumis à des règles de prescription, des règles d'usage, des règles professionnalisées en quelque sorte, qui est professionnalisé sous l'égide de la science, pas sous l'égide du savoir magique, du savoir en quelque sorte religieux. Tout le médicament est empreint de religiosité, hein, tout, disons la prescription, le rapport au médicament, l'idée de principe actif, hein, un médicament, c'est actif, c'est un bien qui agit, qui a une, un mana, qui a une force en soi, qui est capable, disons, d'agir indépendamment de vous. Hein. Vous le prenez, puis après, c'est lui qui agit, pour le bien et pour le mal. En liant toujours le bien et le mal, hein. Il n'y a jamais de bien sans mal, il y a toujours cette dualité religieuse selon laquelle il y a un enfer et un paradis. Le médicament, c'est l'enfer et le paradis, et selon la dose. Et vous changez de dose et vous passez de l'enfer au paradis. Donc voilà. Donc il y a, je crois effectivement un des ressorts, si vous voulez, de nos attitudes et de nos complexités, de la complexité de la compréhension et de la passion qui est autour de ces sujets, c'est le positionnement de ce bien médicament entre deux univers, l'univers de la science et de la médecine et l'univers des pratiques magiques, l'univers du recours à l'objet qui est par lui-même est capable de guérir et de gérer cette relation à la maladie et à la mort. C'est un objet étrange, le médicament. Hein, c'est entre science et magie. C'est un objet intermédiaire. C'est un objet transactionnel. Hein, toujours entre marché. Par exemple, c'est le marchand dans le non-marchand. Hein, c'est le capitalisme dans la santé, le médicament. On ne peut rien prendre du médicament qui ne soit dans une logique un petit peu d'articulation, de contradiction entre deux univers. Magie et science, marché non marchand, privé et public, médecine, société. Le médicament, et puis plus que ça, c'est un modèle, un modèle épistémologique et culturel. L'administration de la preuve en médecine, c'est-à-dire le modèle des essais randomisés en double aveugle, est venu du médicament. Le médicament a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'evidence-based medicine, c'est-à-dire il est produit par la science, mais il produit lui-même, il génère aussi les critères de scientificité de la médecine. La médecine devient scientifique ou à travers l'usage de ce médicament en essayant d'en isoler, d'en comprendre les mécanismes, c'est y compris avec Claude Bernard, y compris avec, disons, la compréhension des déficits, cette médecine du plus ou de moins, hein, cette médecine de l'hyper et de l'hypo, où il y a des doses à corriger ou à diminuer le cas échéant. Donc un modèle épistémologique, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez dire la notion d'efficacité en médecine vient du médicament. On dira c'est efficace si on a fait une étude randomisée en double aveugle en éliminant l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, c'est extraordinaire. Si on veut avoir un élément, si vous voulez, de l'effet magique du médicament, l'effet placebo, on pourrait on y a consacré des ouvrages, car précisément il montre cette capacité du médicament à agir presque indépendamment de son principe actif, hein, par la croyance, et agir réellement. C'est pas un faux, c'est-à-dire qu'il dit, il induit, le fait placebo, ça induit, il y a un substrat, et ça va même très loin, il y a des papiers qui montrent que quand on dit aux gens c'est un placebo, voilà, vous allez prendre un placebo, et bien ça marche quand même. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire aux gens que c'est un placebo pour que neutraliser l'effet placebo. Donc c'est extrêmement puissant et c'est précisément un de ces éléments, disons, de magie qui est autour du médicament. Médicament et société, le médicament a changé la société. Il a changé la condition féminine. Avec Neuwirth est mort il y a 2 jours, ça a changé complètement la condition féminine et la natalité. Hein, c'est-à-dire que la natalité est plus faible dans les sociétés où il y a des pilules qu'en société où il n'y a pas de pilules. Ça a changé, effectivement, c'est un régulateur social. Il n'y aurait pas de ce qui maintient la paix dans les prisons, c'est la télé et le tranquillisant. Tout le rapport. Alors, c'est aussi intéressant autour du sang, par exemple. Là, on pourrait dire beaucoup de choses sur le sang comme produit thérapeutique. Tout ce qui est la grève d'organes qui a été rendue possible grâce aux immunosuppresseurs. Donc, il y a plein de choses c'est plus qu'un moyen thérapeutique, c'est aussi un élément de changement, ça agit sur les rapports sociaux. Pensez à la folie, pensez aux neuroleptiques et à la schizophrénie, à la disparition de pratiques barbares, de chirurgie du cerveau qu'on faisait encore dans les années 50. Et Hemingway est mort d'une crise d'électrochocs qui ont mal. Donc jusque dans les années 50, on traitait encore la mélancolie, la dépression, dépression ou le versant négatif de la schizophrénie par des cures extrêmement brutales. Voilà, donc moi, en tout cas, je ne vais pas continuer là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet, enfin, c'est mon sujet, mais sans l'être. Simplement, alors, le médicament, c'est quoi? Alors, voilà, toujours ce choc. Hein, on va basculer sur le volet scientifique et sociétal, tout en gardant en mémoire que, comme principe d'explication des attitudes sociales, on aura souvent la contradiction qu'il y a entre une aspiration ou une croyance dans ce médicament magique et puis une réalité régulation médico-administrative qui se réfère à l'objet dans sa définition scientifique. Alors, la définition scientifique, c'est quoi? Elle n'est pas très scientifique, justement. Donc, vous la connaissez, je vais partir rapidement. Elle est très intéressante, cette définition. Donc, un médicament, c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, etc., ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical, restaurer, corriger, modifier la fonction physiologique. Alors, cette définition, elle a été toute petite, elle est devenue très grosse parce qu'il faut, on a toujours ajouté, restaurer. Avant, c'était simplement guérir. Après, c'est restaurer, corriger, modifier. Bon. Au fur et à mesure que, disons, le spectre d'action du médicament s'élargit, on modifie la définition. Ce qui est intéressant, c'est la notion de présenter comme. C'est-à-dire que toute substance qui se prétend médicament est un médicament pour la loi. C'est-à-dire que pour être un médicament, il suffit de dire « je suis médicament ». Et à partir de ce moment où vous dites « je suis médicament », vous êtes médicament. Et donc, n'importe la revendication, et même la loi dit « tout objet qui se présente, qui peut induire chez un individu raisonnable un risque de confusion ». C'est-à-dire que non seulement... Vous, si vous présentez comme médicament, vous êtes médicament, mais même si vous avez la forme d'un petit comprimé, vous êtes du sucre ou un bonbon, mais que vous rappelez trop la forme du médicament, vous serez médicament aussi par présentation. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous êtes médicament au sens de la loi, c'est-à-dire si la loi vous dit vous êtes médicament, eh bien, vous devez avoir une AMM. Et en fait, les gens qui prétendent être médicaments sont qualifiés de médicaments pour qu'ils demandent une AMM et pour qu'ils ne l'obtiennent pas. C'est-à-dire qu'on a un processus extraordinairement curieux, disons, d'élimination du non-médicament par la qualification en tant que médicament. C'est en qualifiant les gens, les objets de médicaments, que je les élimine du monde des médicaments parce que je leur fais franchir ou pas franchir, ou ils échouent à l'épreuve de l'AMM qui est liée au statut. Donc c'est un truc assez curieux, assez bizarre de qualifier quelqu'un de médicament pour l'éliminer de la sphère du médicament, mais c'est un petit peu cette subtilité juridique. D'ailleurs, je vous le signale, inventé à Poitiers, hein, c'est à Poitiers, un Poitevin, un professeur de droit à Poitiers qui a fait tout ça dans les années 50, qui a créé le droit pharmaceutique en France, et donc cette idée de définition légale et de définition par présentation. Bon, je vais passer là-dessus. La présence d'une maladie n'est pas une condition nécessaire. Hein. On peut être des médicaments pour des biens portants, la pilule anticonceptionnelle, médicaments à visée préventive, il y a des médicaments de thymo, la couprose, les touches de rousseur, la cellulite. Bon, voilà. Alors, il y a un problème de frontières. Aujourd'hui, le médicament est en concurrence. En concurrence avec ce que nous appelons, nous, les biens à allégation de santé. Donc, les biens à allégation de santé, c'est tout un univers, c'est la cosmétique, c'est les aliments, c'est les compléments alimentaires, c'est des biens qui prétendent agir sur votre santé, par exemple le yaourt ou bifidufactif ou je ne sais pas quoi, tout ce qui... Alors là, on est, par exemple, dans le cas du yaourt, est-ce que c'est un médicament par présentation ou pas ? On pourrait hésiter. Alors pour l'instant... La jurisprudence est raisonnable aussi, elle applique les textes, mais bon, elle a décidé que non. Mais le discours sur les... Parce qu'il n'y a pas trop de confusion physique, enfin, disons, de la configuration physique de l'objet. Mais le discours est un discours de revendication d'une action. Alors, la cosmétique, il y a une définition très précise de la cosmétique, il y a une définition très précise de l'aliment, il y a une définition juridique de l'aliment. Bon, on ne va pas passer là-dessus, mais c'est intéressant simplement pour le rappeler. Quelle est la conséquence d'être un médicament? Si je suis un médicament, dans tout pays et pour tout produit, tout médicament doit avoir une AMM. Donc ça, c'est le point qui, au fond, vous êtes un candidat médicament, mais vous ne venez vraiment médicament, ou plutôt, vous êtes un médicament, mais vous avez le droit d'être vendu que si vous avez une AMM. Maintenant, vous pouvez ne pas avoir une AMM et être vendu quand même, mais vous êtes hors la loi. Donc, et donc vous serez dans, poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Mais néanmoins, enfin, c'est non pas une obligation qui vous donne l'existence, c'est un document qui vous donne le droit. Une pratique, c'est le droit à une pratique commerciale et médicale, mais sinon, évidemment, vous avez tous les droits d'exister, mais simplement, vous n'avez pas le droit d'être mis sur le marché, comme dit le... à côté de ça, c'est la seule conséquence réellement universelle qui soit dans tous les pays, dans tous les produits. Maintenant, certains médicaments... qui touche tous les produits, mais pas tous les pays, tombent dans le monopole officinal. Donc en France, par exemple, tous les médicaments sont, mais pas dans tous les pays, puisque ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas dans plein de pays, mais en France, tous les médicaments sont soumis au monopole officinal de distribution. Donc si quelque chose est acheté en dehors d'une officine, ce n'est pas un médicament. Maintenant, tout ce que vous achetez en officine n'est pas un médicament. L'officine a le droit de vendre un certain nombre de choses, mais pas n'importe quoi. La liste des biens autorisés à être vendus dans les officines est fixée par l'État, par le règlement, et donc il y a tout ce qui a un lien avec le corps, mais vous n'avez pas le droit de vendre des piles, vous n'avez pas le droit de vendre des chaussettes, vous n'avez pas le droit de vendre un certain nombre de choses. Par contre, des bas de contention, oui. Donc, mais la liste existe, elle est publiée au journal officiel, actualisée régulièrement. Tous produits ne sont pas de prescription médicale obligatoire. Là, effectivement, il y a des produits. Alors, ça, c'est même un petit peu. L'affaire c'est inversé dans le temps. Au début, aucun produit n'était de prescription médicale obligatoire. C'est-à-dire que la médecine a petit à petit imposé l'idée. Mais ça, ça a pris du temps, qu'il ne fallait pas trop laisser les gens s'auto-prescrire des médicaments, que c'était dangereux, qu'il valait mieux une expertise médicale. Et au début, pour des médicaments dangereux, mais par exception, on a fait une liste, qu'on appelle la liste 1, des médicaments à de prescription médicale obligatoire. Et puis au fil du temps, la règle est devenue l'exception, ou l'exception est devenue la règle, et donc aujourd'hui, c'est les médicaments non listés qui sont plus rares que les médicaments listés. Donc, alors ce qu'on appelle passer de délister un médicament, c'est en fait plus que des remboursements, parce que des remboursements, c'est un problème uniquement de financement. Le vrai problème d'automédication, c'est passer de la liste des médicaments de PMO, prescription médicale obligatoire, à la liste de médicaments de PMF, de prescription médicale facultative. Cette liste PMF, aujourd'hui en France, effectivement, on essaye un petit peu de la stimuler, mais elle a été très historique. Dans l'aspirine anti-agrégant plaquettaire, qui peut entraîner à la fois des ulcères et des hémorragies, est un produit de PMF. Alors qu'aujourd'hui, vraisemblablement, s'il était mis sur le marché, il serait un produit de PMO. Mais bon, l'histoire veut que Rhône-Poulenc, usine du Rhône, fait qu'au fond, on s'est habitué à ça. Voilà. Et puis, tous les produits ne sont pas remboursés par l'assurance maladie et tous les pays n'ont pas l'assurance maladie. Donc, ouais, bon. Donc je fais là-dessus. Le statut du médicament est très complexe. Je ne vais pas rentrer là, c'est trop compliqué. En gros, il y a des médicaments sur liste, on vient d'en parler, des médicaments hors liste. Il y a des médicaments qui sont hors liste mais remboursables, par exemple le paracétamol. Vous pouvez l'acheter, donc il est hors liste, mais il est remboursable, mais à condition qu'on vous le prescrive. En revanche, les médicaments hors liste non remboursables, par exemple un médicament contre un vélotonique, c'est hors liste, vous pouvez l'acheter sans ordonnance, mais ce n'est pas remboursable, même si on vous le prescrit. Même si votre médecin vous le prescrit, il ne sera pas remboursé. Donc il y a des statuts très compliqués il y a bien sûr la prescription, il y a la délivrance, le remboursement, le prix, la publicité grand public. La publicité grand public est interdite pour tout médicament remboursable, mais elle est autorisée pour tout médicament non remboursable, avec des régimes de vérification. Si un médicament n'est pas remboursable, la publicité est autorisée. La publicité n'est pas un problème de prescription, c'est un problème économique. On ne veut pas que ça coûte cher à la Sécu. Maintenant, si ça ne coûte pas cher à la Sécu, vous avez le droit de faire de la publicité, y compris la publicité grand public à la télé. Et d'ailleurs, vous en faites, du Tonus pour la Score, du Tonus pour le Sprit. Voilà. Vous avez le droit. Et en général, d'ailleurs, les pharmaciens n'aiment pas beaucoup ça, parce qu'il y a une demande, un pic de demande le lendemain où c'est passé à la télévision. Et donc, il y a un côté un peu dépossédé de mon expertise. Le marché officinal du médicament, c'est 21 milliards d'euros. 27 si on ajoute le marché immobilier, en chiffre d'affaires, 35 en prix public. C'est-à-dire, pour passer du chiffre d'affaires au prix public, il faut rajouter la marge officinale et il faut rajouter la TVA. Enfin, la marge officinale et la marge grossiste, et puis la TVA, il y a une TVA de 2,5%, 2,1% sur le médicament remboursable, et de 5,5% et maintenant 7% sur le médicament non remboursable. Donc, vous payez de la TVA sur le médicament que vous achetez. Voilà, PMO, PMF, etc. 21 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Tout le marché pharmaceutique, le chiffre d'affaires de France Télécom, c'est 45 milliards. Donc, en France. Donc, on a l'impression, là aussi, que c'est gigantesque, c'est énorme, etc. C'est évidemment des gros chiffres, mais c'est quand même, c'est pas non plus on peut toujours regarder les choses. L'hôpital, donc 6 milliards d'euros, ça représente, les dépenses hospitalières, c'est environ 80 milliards d'euros. Et les dépenses de santé, c'est 240 milliards d'euros. Donc, voilà. Et la dépense remboursée de santé, c'est 180 milliards d'euros. La dépense publique de santé, c'est 180 milliards d'euros. Sur les 180 milliards d'euros, l'hôpital fait un peu moins de la moitié, 45% environ. Voilà, donc c'est à la fois beaucoup d'argent. En tout cas, c'est un poste assez particulier parce que c'est là où, semble-t-il, l'hôpital, c'est 1 million d'emplois. Donc si je touche à l'hôpital, je n'ai pas des emplois. La médecine de ville, ce n'est pas non plus beaucoup. C'est pas si extraordinaire que ça. Bon, c'est à peine plus que le médicament. Donc le médicament, le médicament, c'est un bien industriel, c'est des grandes sociétés capitalistes, c'est fait par des étrangers souvent, des Américains, des Suisses. Il y a un grand groupe français, mais bon. Donc c'est des profits. Donc disons, c'est un élément sur lequel il y a politiquement et économiquement des marges de manœuvre supérieures certainement aux autres postes de dépenses de santé. Bon, on y reviendra. Contrairement à ce qu'on pense, le marché français est en récession. Les Français consomment de moins en moins de médicaments. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je pense qu'on ferait un sondage dans la rue, les gens diraient exactement l'inverse. La consommation baisse à la fois, vous le voyez sur les deux petits graphiques à droite, à la fois en volume et en valeur. En volume, un peu, 1,5%. Depuis 2005, et depuis un événement très précis qui est l'arrivée à la tête de la Caisse d'assurance maladie d'un directeur général particulièrement dynamique qui a mené avec les syndicats des négociations, qui a créé des réseaux de délégués de l'assurance maladie, qui a exercé une pression assez forte chez les prescripteurs. Et de fait, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on voit que la prescription des médecins généralistes, c'est en bleu, baisse depuis assez régulièrement. Je reviens un petit peu. Voilà. Et puis alors en valeur, ça baisse aussi en valeur parce que ça c'est un peu plus récent, c'est depuis 2010, on exerce une pression sur les prix et comme on est en crise depuis 2010 particulièrement, l'année 2009 a été très mauvaise, comme là-dessus 2009 c'est aussi l'année Mediator, donc l'affaire Mediator qui n'a rien arrangé en ce qui concerne le médicament, donc depuis cette année 2010, on combine en fait une baisse des prix tous les ans, une baisse des prix et cette année particulièrement forte, enfin l'année prochaine, 2014, la seule originalité c'est qu'en 2014, c'est le prix du générique qui va baisser très fortement. 400 millions de baisse des prix uniquement sur le marché générique. Alors que là, cette année, c'était un peu tout le monde qui baissait. Donc voilà, donc un marché qui s'érode lentement. C'est le cas, on trouve une érosion comme ça aux États-Unis. On trouve incroyable, mais parce que le marché américain était extraordinairement dynamique, avec des prix extraordinairement élevés, le double, le triple de nos prix. Mais c'est un marché qui aujourd'hui est plutôt qui s'érode aussi. On trouve une érosion en Angleterre. Alors je dis pas ça s'effondre littéralement en Grèce et en Espagne, effondrement en Grèce et en Espagne. Donc il y a aujourd'hui en Europe, pour des raisons variées. Des bonnes et des mauvaises raisons. C'est-à-dire que la France, c'est parce qu'elle veut maîtriser l'Espagne et le Portugal, et la Grèce, c'est parce que le pouvoir d'achat s'effondre, qu'il n'y a plus de fonds publics, que les hôpitaux n'achètent plus de médicaments et que la santé se dégrade. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi, faut voir ça un petit peu avec. C'est pas le même mécanisme partout dans le monde. Un événement 2012, ça a été une certaine explosion du marché des génériques. Là, vous voyez bien là sur cette courbe, et ça dure encore aujourd'hui. Mon graphique s'arrête en août, mais je pourrais le poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Entre avril 2012 et septembre 2012, le marché a pris près de 10 points de pénétration. Aujourd'hui, on est à environ à 80% de pénétration en unité. C'est-à-dire que dès lors qu'un médicament est généricable, donc bien sûr, faut-il encore qu'il soit généricable. 4 boîtes sur 5 sont délivrées, sont des génériques. Pas dans l'enthousiasme général, avec l'idée, avec plutôt la France a basculé dans le générique, un peu contrainte et forcée. Les médecins, et surtout avec un, disons en ayant entre guillemets payé les pharmaciens, c'est-à-dire que si ça a augmenté là, c'est parce que les pharmaciens ont signé un contrat avec l'assurance maladie qui leur assure des primes si le boost un petit peu donc il a fallu, l'État a acheté en quelque sorte cette politique du médicament contre une opinion publique un peu sceptique, c'est vrai, et contre, c'est un des rares sujets qui intéresse l'opinion publique, le générique. L'opinion publique s'intéresse assez peu aux médicaments, on fait assez confiance en médecins. Par contre, le générique, ça, c'est un sujet, est-ce que c'est vrai, c'est pareil, c'est pas pareil, il y a un lobby anti-générique, un médecin qui a fait un bouquin en disant que ça va pas, il y a même il y a cette idée d'excipient à effet notoire. Alors, cela étant, le monde entier mange du générique. Et le monde entier, dans le générique, a beaucoup plus forte dose que nous et s'en part pas plus mal. Là, il y a toujours un petit peu nos passions traditionnelles sur ces sujets. L'hôpital, en quoi sens nul, ça... Bon, c'était un petit peu pour rappeler le processus de développement du médicament, mais je n'ai pas trop le temps, je ne vais pas rentrer, on y reviendra. Disons simplement que la simple idée sur laquelle j'insiste, c'est le caractère extraordinairement codifié de ça. Le développement d'un médicament, c'est un processus médical, mais c'est surtout un processus administratif. C'est surtout un processus, tout est déclaré, tout est surveillé. Et par exemple, le passage à l'homme, quand pour la première fois, votre molécule passe d'un animal, le préclinique, un rat de laboratoire, à un homme en phase 1, eh bien, ça, c'est un grand événement dans la vie du médicament. Et donc, vous ne le faites pas par hasard, et vous avertissez les agences, vous obtenez une autorisation, il faut demander une autorisation. Vous ne pouvez pas commencer un essai clinique sans être autorisé par l'État, l'agence qui lui-même demande son avis à un comité d'éthique pour savoir si c'est bien nécessaire que l'essai soit fait, qu'on prenne prendre des risques aux patients. Voilà. Donc l'idée que c'est un petit peu le Far West, qu'on fait n'importe quoi, c'est une idée qui est assez courante, d'ailleurs que certains médias véhiculent. Il n'y a rien de plus codifié, rien de plus réglementé. Alors après, on peut dire c'est bien mal réglementé, etc. Mais rien de plus. Une réglementation qui se développe. On n'est pas. Dans le médicament, on est à l'inverse des politiques de dérégulation. Chaque année qui passe rajoute sa couche de régulation, à juste titre. Il s'agit de protéger la santé des gens, ce n'est pas une critique. Mais la critique consisterait à nier, à ne pas voir qu'il y a un débat, un effort et des autorités publiques qui font leur boulot relativement correctement. Parce qu'en France, bon, on a quand même pas. J'ai vu, il faut savoir qu'on mange en France environ 3 milliards de boîtes de médicaments par an. 3 milliards de boîtes de médicaments par an pour 60 millions, c'est-à-dire que chaque Français mange environ 50 boîtes de médicaments par an. Bon, il n'y a pas beaucoup d'accidents, compte tenu de la masse. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas plus. Je passe sur le brevet et sur la propriété intellectuelle, parce que c'est très intéressant le brevet, c'est une histoire passionnante le brevet, mais on n'a pas le temps, on aura des discussions sur le brevet. Et j'en arrive au processus de prix de remboursement. Là aussi, même chose. Le processus de prix de remboursement est extraordinairement codifié dans tous les pays, enfin dans tous les pays, à part les États-Unis où il est libre, sinon dans tous les pays occidentaux, il y a des contrôles de prix. Et on est plutôt là aussi dans l'idée inverse à la dérégulation. Les pays qui avaient des traditions plutôt libérales deviennent dirigistes. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Danemark, par exemple. L'Europe du Sud était beaucoup plus dirigiste depuis longtemps. Comment ça se passe en France ? Vous connaissez c'est peut-être le système. Il est rappelé d'ailleurs sur certains des posters là-haut. C'est un processus. Ah, ça, c'est une doctrine française. C'est une doctrine française que nous exportons d'ailleurs. On l'a exporté récemment un peu vers l'Allemagne. L'Allemagne a pris depuis 2-3 ans un système qui ressemble à celui-là. C'est un système en deux temps. C'est un système où on sépare, c'est ça la philosophie française, de séparer l'évaluation médicale de l'évaluation économique. Il y a une évaluation médicale, est-ce que le produit vaut la peine d'être pris en charge par la collectivité ? Donc, cet avis est donné par une commission qui s'appelle la commission de transparence, CT, qui est une commission qui dépend de la Haute Autorité de Santé, HAS. Et donc là, c'est une commission d'experts, uniquement d'experts. Il n'y a que des experts, une vingtaine de personnes, des membres actifs, plus des administrations, mais qui ne votent pas. C'est que des experts qui décident si le médicament vaut le coup d'être pris en charge. Autrement dit, est-ce que la collectivité doit payer votre médicament ? Si elle dit non, eh bien vous l'aurez, mais vous le payez. Vous le paierez. Si elle dit oui, eh bien il sera remboursé par l'assurance maladie selon un barème 15, 35, 65, 100% selon les cas, un barème qui dépendra d'un certain nombre de facteurs un peu plus compliqués. Une fois que la décision est prise, eh bien un autre comité, cette fois un comité technique qui s'appelle le comité économique des produits de santé, fixe un prix en fonction d'un certain nombre de facteurs, la concurrence internationale, enfin les prix à l'étranger, mais aussi du jugement médical. Plus un produit aura un jugement médical favorable, plus il aura un prix élevé. Enfin, il pourra négocier son prix. Il y aura toujours une revendication de prix, mais on sera plus coulant avec sa négociation de prix si le produit est réellement un produit important ou s'il n'apporte rien. Pour cela, on a en France cette disposition unique qui est de classer sur une échelle à 5 degrés les nouveaux médicaments. Donc c'est un apport majeur, important, modéré, mineur ou sans. Et tous les médicaments qui arrivent font l'objet d'un classement sur cette échelle. Vous voyez qu'en 2012, aucun médicament n'était considéré comme une innovation majeure, 3 comme une innovation importante, et puis le reste, 183 médicaments sur 207, comme n'apportant rien par rapport à ce qui existe déjà. Donc ce sont des médicaments qui sont utiles, qui marchent bien, mais qui n'ont pas d'amélioration par rapport à des médicaments qui arrivent déjà. Quel intérêt ont-ils, allez-vous me dire? La loi est très claire, s'ils n'apportent rien, ils doivent être moins chers. Donc tous les médicaments, c'est la loi, donc tout médicament qui n'apporte rien, par définition, voit son prix décoté, et la décote a plutôt augmenté de 5, 10, 15, 20, 30% par rapport au médicament de référence, par rapport au médicament qu'il a choisi lui-même, auquel il a choisi lui-même de se comparer. Voilà, je voulais terminer. Alors ça, c'est important, on en discutera peut-être. Il y a beaucoup de débats. On a dit beaucoup de bêtises. Hein, on a dit beaucoup de bêtises. Et même il n'y a pas longtemps, sur France 2, France 3, ou je ne sais plus quoi, j'ai entendu quelques collègues à moi qui sont d'éminents médecins, mais de pas très bons économistes, et dire beaucoup de choses fausses sur ce système, de, par exemple, dire qu'il n'est pas comparatif, alors qu'il est essentiellement comparatif. Dire que l'industrie siège, alors que l'industrie siège à aucun moment de ces étapes, l'industrie n'est membre d'aucune de ces instances. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là aussi qui manquent un petit peu de notre. Alors le dernier point, c'était l'officine. J'en dis un mot. Là encore, français, France, spécificité française, il n'y a pas que la culture française, il y a aussi l'officine française. Nous sommes le rare pays qui cumule tous les traits. Monopole de la distribution de spécialités pharmaceutiques, des quotas de pharmacie par pharmacie, pas de chaîne, le caractère personnel de l'exercice. Nous n'avons pas comme les Anglais le Boots, nous n'avons pas comme les Américains des grandes enseignes. Hein, donc un exploitant propriétaire, pas plus d'une licence officinale par pharmacien, l'interdiction de distribuer d'autres produits que des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques. La pharmacie française ne va pas très bien, parce que le marché pharmaceutique ne va pas très bien, donc elle ne va pas très bien elle-même. Et puis, il y a des problèmes de démographie aussi, comme chez les médecins. Donc, voilà. Donc elle se pose des questions, la pharmacie française. La pharmacie française se pose des questions. Et lesquelles questions? Eh bien, qu'est-ce que ça va devenir? La concurrence des grandes surfaces, Leclerc qui aimerait bien vendre des médicaments, une des réticences sur des professionnels de santé vis-à-vis de l'automédication, c'est que ces produits d'automédication, au fond, passent en grande surface. Si un médecin ne les prescrit pas, pourquoi un pharmacien les vendrait-il? Alors qu'on pourrait dire, parce qu'un médecin ne les prescrit pas, il serait bon qu'un pharmacien contrôle. Mais en fait, les professions de santé se voient beaucoup plus solidaires et se disent que le risque, si le médicament n'est pas prescrit, c'est que on considère qu'il n'y a pas besoin d'un pharmacien et que un rayon pharmacie, un linéaire pharmaceutique à l'intérieur d'une grande surface, comme il y a dans l'intérieur de grande surface le rayon boucherie ou le rayon boulangerie, pourrait, quitte à embaucher un pharmacien pour faire ça, hein, pourrait remplacer. Voilà, ça c'est pas assez. Voilà, ça c'est. Et puis aujourd'hui, la plupart des médicaments innovants ne sont pas en officine, ils sont à l'hôpital, donc ça aussi c'est un problème. Donc voilà, est-ce que le métier de pharmacien, ce sera toujours de vendre des médicaments? Est-ce que ce ne sera pas de faire du service aux personnes âgées, suivi pathologie chronique, tenue des dossiers patients, participation au réseau de pharmacovigilance, participation à des réseaux de soins, engagement dans la politique de prévention? Voilà, donc là, les pharmaciens réfléchissent à ça. C'est quoi notre métier? Est-ce que notre métier, c'est des professionnels de santé ou des vendeurs de médicaments? Si c'est des vendeurs de médicaments, je crains qu'on puisse le faire de manière plus efficace, vendre des médicaments. Si c'est des professionnels de santé, il faut qu'ils s'arrangent avec leurs collègues médecins, et il faut qu'ils s'arrangent, et c'est pas simple, qu'ils trouvent leur place dans un dispositif dans lequel ils l'avaient en tant que vendeur de médicaments, et ils risquent, le rôle de vendeur disparaît, se recentrer avec un rôle d'acteur de santé. On le voit sur le suivi des AVK, par exemple, qui est dans la convention, les AVK, les anti-vitamine K, qui sont des produits anticoagulants dangereux, et qui doivent être suivis biologiquement. Est-ce que ça relève du médecin qui a prescrit la VK de faire le suivi de son patient, ou du pharmacien qui délivre la VK de faire le suivi du patient? Chacun, enfin, les pharmaciens ont signé avec la CNAM un accord qui leur donne 40 € par patient pour suivre leur patient AVK, 40 € par patient et par an, mais les médecins râlent en disant c'est aussi notre travail. Donc là, il y a du doublon, et aujourd'hui cette histoire de, disons, de répartition des tâches n'est pas claire, et le sera encore moins dans le futur, et c'est pas simplement entre médecins et pharmaciens, c'est aussi entre médecins, pharmaciens et infirmières, par exemple pour la vaccination contre la grippe ou pour un certain nombre d'actes médicaux que l'État aimerait bien confier à des paramédicaux, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc on est dans une histoire compliquée, une histoire peu connue, une histoire qui... Là, je ne vous parle pas de la guerre des étoiles, des anticorps monoclonaux, des manipulations génétiques, des produits extraordinaires qui sortent aujourd'hui, qui sortent depuis les années 80, quand on a commencé à reprogrammer des bactéries pour qu'elles fabriquent des substances humaines, fabriquer de l'insuline humaine à partir d'Escherichia coli. Hein. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Et donc, on a commencé ça. C'est la grande aventure des biotech qui a débuté dans les années 80 et qui se poursuit. Et aujourd'hui, on a la première génération de produits commencent à venir eux-mêmes à expiration, enfin en fin de vie, et on est aujourd'hui sur la deuxième, troisième génération. Le next step, c'est la thérapie génique, c'est aller modifier votre propre... Ça existe, il y a un produit de thérapie génique que, en plus, je m'occupe un peu, pour l'hémiopathie, pour la myopathie de Duchenne, qui va certainement arriver. C'est pour les maladies qui sont liées à des malformations chromosomiques à la naissance, et on va aller corriger le gène en question avec un virus qui va porter à l'intérieur de la cellule malade, qui va porter un bout d'ADN correct. On va prendre l'ADN malade, on va le découper, l'enlever et coller à la place l'ADN corrigé. Et ensuite, on va essayer d'éliminer le virus. On va essayer d'éliminer le virus en espérant que le virus qu'on a utilisé ne tue pas le patient entre-temps. Donc on a quand même des problèmes, disons, de vecteurs, des problèmes de sécurité de ces thérapies qui utilisent les virus comme pour aller porter le médicament à l'intérieur du corps humain. On est sur des techniques absolument extraordinaires, surprenante. Il y a eu une grande conférence en 1985 sur un petit peu est-ce qu'on joue pas les apprentis sorciers, donc c'est une conférence célèbre faite par les premiers initiateurs de ces thérapies géniques en Californie. Alors il y a des avantages, par exemple une insuline produite par thérapie génique. Un exemple quand même assez frappant et qui touche tout le monde, c'est l'hormone de croissance, hein, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les hormones de croissance extractives, hein, d'hypophyse humaine ou animale, étaient contaminées et donc ont donné des maladies Creutzfeldt-Jakob. Les hormones de croissance recombinantes, enfin produites par ces techniques-là, qui sont des techniques de manipulation génétique, elles ne sont pas dénuées d'effets secondaires, c'est faux de dire ça, mais ont diminué, la survenue des pathologies, en tout cas celle-là, parce qu'il n'y a pas de prion. Alors pour le coup, on a éliminé la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on n'a pas nécessairement éliminé toutes les autres effets secondaires, mais enfin à un rythme beaucoup plus faible. Même chose avec l'insuline, où les insulines extractives entraînaient des problèmes d'immunogénicité, c'est-à-dire de rejet chez les patients qu'on traitait, les patients diabétiques. Avec les insulines recombinantes, ce n'est plus le cas. Donc, on joue à l'apprenti sorcier, mais comme toujours dans ce domaine-là, c'est le rapport entre le bénéfice et le risque. L'idée qui est néfaste, et qui passe un peu, et qui malheureusement est trop souvent et a été inscrite dans la Constitution sous le nom de principe de précaution, c'est l'idée qu'il n'y aurait pas de risque. Bon, et aujourd'hui, bon, je ne vais peut-être pas parler du cas Gardasil, mais ce sera intéressant à analyser. La pédagogie du risque fait partie de la pédagogie du médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament sans risque. Il faut le savoir et il faut avoir sur ce terrain-là une discussion adulte. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas cacher le risque, comme on a fait. Hein, on ne vous le dit pas parce qu'on est dans une relation tutélaire. Hein, donc on s'occupe de vous. Donc vous n'êtes pas trop adulte, vous êtes enfant, vous êtes malade, donc enfant. Le malade est un enfant, en quelque sorte. Donc, avoir avec, en tout cas, la maladie le ramène à l'enfance. Avoir avec lui un rapport adulte qu'on n'a pas eu beaucoup en santé publique. On a eu une santé publique en France très culpabilisante, moi, l'État, je sais, vous exécutez. Et donc, cette santé publique très culpabilisante peut avoir comme effet une perte de confiance dès lors qu'il y a... potentiel accident de santé publique. Enfin, voilà, on reviendra là-dessus si vous voulez dans la discussion. En tout cas, merci de vous intéresser à ça parce que je ne connais pas de sujet plus intéressant dans la société française que le sujet du médicament.
En tout cas, merci pour cette présentation et pour cette passion qui vous anime. Patricia Prévost, j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on a entendu. Juste pour commencer, on va parler de votre vie, de votre œuvre et tout simplement de votre quotidien. Ne serait-ce que ce matin, vous avez rencontré des patients et je crois que vous êtes amusé par rapport à la soirée de ce soir de voir à peu près les prescriptions que vous avez faites. Alors, de façon générale, est-ce qu'on est d'accord sur que la consommation des médicaments baisse, moins de prescriptions, y compris dans votre cabinet? Comment ça se passe?
Mais, écoutez, moi, je ne sais pas, en fait. C'est difficile d'avoir du recul sur sa propre activité. Après, je pense effectivement qu'il y a moins de prescriptions. Alors moi, je suis médecin généraliste donc à Chevigny. J'ai une activité semi-rurale, on va dire. Je travaille tranquillement. Je vois une vingtaine de patients par jour et ça me va bien comme ça. J'aime travailler de cette façon-là. Je ne sais pas si je représente bien mes confrères. J'ai des confrères qui travaillent beaucoup plus et qui ne vont pas avoir la même pratique que moi. D'autres qui travaillent moins aussi ou qui font de l'homéopathie. En plus, je suis médecin coordonnateur en EHPAD. Donc, par rapport à cette consommation de médicaments, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une petite étude au sein de l'EHPAD sur les prescriptions, justement, de mes collègues et de moi aussi, puisque, du coup, je prescris sur 90 patients en EHPAD. J'ai 10 patients qui sont les miens, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a une baisse de la consommation sur 2 ans. Il y avait déjà une baisse de la consommation. Je l'ai fait en 2010 et en 2011. Et sur les 2 ans, il y avait moins de neuroleptiques, moins d'antidépresseurs, beaucoup moins de traitements de la démence parce qu'en fait, en 2010, c'était encore, je dirais, la mode voilà, de prescrire ces produits-là. Là, maintenant, les recommandations elles sont quand même claires par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en EHPAD, alors la population aussi en EHPAD est beaucoup moins valide, je dirais, que celle que... Quand j'ai commencé là-bas il y a 4 ans, la population était beaucoup plus valide. On a des gens qui sont de plus en plus fatigués. Donc, c'est pas des gens candidats à ces traitements contre la maladie d'Alzheimer, par exemple. Mais globalement, je pense effectivement que la consommation de médicaments, elle a baissé.
Et le rapport avec vos patients, comment ils le... Quand vous prescrivez les médicaments, est-ce que du coup, ils sont plus... On parlait d'Internet où on va tous voir ce qui se dit, ce qui se raconte. Est-ce que vous les sentez plus critiques, parfois pas d'accord, ce qui n'était pas le cas avant, ou pas plus que ça à votre niveau?
Je dirais pas plus que ça, mais vous savez, je crois aussi une clientèle, on dit souvent que, alors c'est peut-être une idée reçue, mais que la clientèle ressemble à son médecin. Et du coup, moi, ceux qui sont pas d'accord, j'ai tendance à les renvoyer bouler, donc ils reviennent pas. Donc forcément, on va sélectionner des patients. Ce matin, par exemple, j'en ai un, je suis sûre qu'il ne va pas revenir. Il voulait un arrêt de travail, on s'est disputé. Je pense qu'il ne reviendra pas, celui-là. D'ailleurs, il est reparti sans médicaments. Hein. Il venait parce qu'il avait mal, mais il n'avait pas besoin de médicaments, finalement. Il avait surtout besoin de repos. On est beaucoup prescripteurs de repos, en fait. Enfin, on a des demandes de repos. Hein.
les génériques, les antibiotiques, c'est vrai que c'est peut-être des sujets qui passionnent un peu plus le grand public. Qu'est-ce qu'on vous dit face à ça? C'est quoi le rapport?
Les antibiotiques, moi j'ai l'impression que les gens ont compris justement qu'une rhinopharyngite, il n'y avait pas besoin d'antibiotiques. Et alors, on a un outil qui est quand même très intéressant, c'est le streptatest, c'est un petit test rapide de diagnostic pour l'angine en fait. Et ce test, donc ça se présente comme un coton-tige qu'on frotte au fond de la gorge et puis on analyse ça vite fait. Donc là, déjà, c'est agréable parce qu'on passe pour des savants. On est en train de faire un examen très pointu dans le cabinet. Et ce test, normalement, qui doit être utilisé que pour les angines, personnellement, je m'en sers beaucoup quand justement j'ai affaire à une maman anxieuse qui souhaiterait avoir l'antibiotique parce que le petit a de la fièvre depuis plusieurs jours et en fait ça ressemble vraiment à quelque chose de viral. Donc a priori, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Et là, on fait le test en disant, ben non, vous voyez, le test est négatif, on explique bien. Et du coup, je pense que les choses sont acceptées. Mais en même temps, peut-être que je me trompe et qu'en sortant de chez moi, elle va aller voir quelqu'un d'autre qui va lui prescrire l'antibiotique et la cortisone. C'est possible, je ne sais pas ça.
La consommation a quand même un peu baissé. Donc, c'est un peu baissé. Donc, ils n'ont pas systématiquement...
Les génériques, alors, en tout cas, merci de ne pas pratiquer la langue de bois. Les génériques, comment ça se passe? Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez?
Les génériques, moi, je prescris... déjà, un médicament, c'est pas... j'étais étonnée parce qu'en fait, on n'a pas parlé du diagnostic. Et ce qui est important dans la consultation, déjà, c'est de poser un diagnostic. Parfois, même souvent, le diagnostic... on ne sait pas trop, parce qu'on a peu de moyens finalement. Et en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas forcément facile de poser un diagnostic. Donc là, on va se poser la question sur des symptômes de donner tel ou tel médicament. Et le générique... Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Je suis un peu désolée, mais ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que moi, déjà, il va falloir que je prenne une décision. À chaque consultation, je vais prendre une décision. Donc, je ne vais pas me demander en plus, quand j'ai pris ma décision, il y a dans ma tête un nom de médicament qui va arriver. Ce médicament, je vais le noter. Et je ne vais pas forcément le noter en nomenclature internationale. Je pense que pour le coup, c'est peut-être le rôle du pharmacien, justement, de d'adapter ma prescription à justement ce qu'il a dans son officine. Et s'il souhaite donner le générique, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Après, j'ai des patients qui... vont me demander de ne pas avoir le générique. Et là, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'observance. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était un gros mot et qu'il ne fallait pas parler de malobservance. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, je pense, la malobservance, justement. Et si on prescrit un médicament... et le patient en face n'est pas convaincu que ça va lui faire du bien, je pense qu'il ne le prendra pas et qu'il va avoir peur de s'empoisonner. Il ne prendra pas un produit qu'il pense, dans lequel il n'a pas confiance. Il y a vraiment une notion de confiance dans le produit. Donc, sur les ordonnances, il est régulier que j'écrive non substituable, même si ce n'est pas dans l'air du temps et même si, oui, c'est peut-être pas bien de le faire. Ça coûte cher, mais moi, d'abord, je ne sais pas compter, donc voilà. Alors, le non substituable, je l'écris souvent sur les ordonnances parce que je pense, quand je le fais, que c'est un gage de bonne observance, justement, du traitement. Voilà.
Merci pour cette réponse. Un petit mot, on l'évoquait par rapport à Internet et le fait que les patients sont peut-être un peu plus critiques. Est-ce que parfois ils viennent en disant oui, mais moi j'ai lu que, on m'a dit que.
Oui. Mais là c'est pareil. Je pense qu'il y a, quand je me suis installée, donc il y a 10 ans à peu près, Je passais beaucoup de temps à expliquer les choses et puis il y en a marre un peu quand même parce que c'est très chronophage. On va passer une demi-heure à expliquer que il vaut mieux faire vacciner quand même le petit et voilà. Et puis finalement, tout est négociation. Donc ceux-là aussi, je pense qu'ils sont partis voir ailleurs à force. Mais bon. Je pense être un médecin malgré tout qui explique les choses et qui je suis à l'écoute des demandes ou de ce qu'ils ont pu voir sur Internet et on en parle. Mais parfois c'est un peu délirant parce que la confiance est davantage en des blogs là sur Internet que finalement le médecin traitant. Donc bon, dès l'instant c'est comme tout à l'heure avec les génériques. Dès l'instant ils n'ont pas confiance, il vaut mieux que qui continue à aller sur Internet ou qui voit quelqu'un d'autre, parce que quand on a expliqué plusieurs fois, bon, voilà. Mais j'ai passé beaucoup de temps à ça.
Une dernière question, puis après, à vous, et puis une qui pourra peut-être apporter une réponse à chacun d'entre vous. L'automédication, on le disait tout à l'heure, peut-être avant c'était plus une transgression. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vos patients parlent plus librement, assument un peu plus ? Ça revient régulièrement ou pas plus que ça ?
Moi, j'ai souvent des appels dans mon cabinet où les gens me demandent voilà, j'ai ça dans ma pharmacie, est-ce que je peux prendre ça ? Et puis on voit ce qui se passe. C'est quelque chose qui se fait. Et je pense que la régulation médicale, vous savez, maintenant, à partir de 20h le soir jusqu'à minuit, en tout cas dans la Vienne, ça fonctionne comme ça. Si vous avez une urgence, vous téléphonez, vous faites le 15 et vous tombez sur un médecin. Et la plupart du temps, le rôle du médecin régulateur, c'est justement c'est d'évaluer l'urgence. Et 9 fois sur 10, je pense, le médecin régulateur va donner un conseil médical avec justement dans votre pharmacie, qu'est-ce que vous avez ? Voilà, on peut faire ça. Donc, en tout cas, moi, ces patients, je les vois après le lendemain parce qu'ils ont eu le médecin régulateur. Et puis, on m'a dit de faire ça et je viens consulter parce que est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Voilà. Après, l'automédication, curieusement, il y a un discours... que j'entends souvent, c'est moi je suis contre les médicaments, je veux pas trop en prendre, mais c'est les mêmes qui après vous appellent, viennent en consultation en disant ça fait 3 jours que je donne de la cortisone à la petite parce que elle fait une laryngite. Voilà. Et la cortisone, ça c'est vraiment, le Soluprès, j'ai l'impression qu'ils en ont tous une boîte dans la pharmacie et c'est le médicament miracle. Donc bon.
Oui, très bien. Alors, donc une question pour tous les trois, puis après je tends mon micro à l'Assemblée. On parle, c'est un sujet d'actualité qui s'est invité, sur vendre le médicament à l'unité. Qu'en pense l'économiste, l'anthropologue et le médecin ? Qui veut se lancer ?
Oh non, c'est très simple. Alors, si vous voulez, c'est une histoire très intéressante parce que chaque fois que je fais des réunions publiques, je fais pas mal de réunions publiques, et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui dit vous savez, c'est absurde, il y a un gaspillage parce que mon médecin m'a prescrit 32 jours de traitement, 33 jours de traitement, et le pharmacien me donne 2 boîtes de 30, alors que bon. Sauf que dans l'hypertension artérielle, enfin dans toutes les pathologies chroniques, personne n'a jamais prescrit 32 jours de traitement, 33 jours de traitement. En général, on prescrit un mois, il y a des boîtes d'un mois. Pour toute la pathologie chronique, qui fait 80% de la consommation pharmaceutique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a intérêt que pour des traitements à durée variable, donc en antibiothérapie. D'ailleurs, la mesure qui a été votée dans le PLFSS actuel ne concerne, techniquement, ne concerne que quelques antibiotiques. Quelques antibiotiques, pas tous, même pas tous, sur lesquels il y aurait une expérimentation qui sera faite dans 3 départements. Donc ce sera un dispositif expérimental sur certains produits, donc sur lesquels il peut y avoir effectivement des durées de prescription adaptées. Pour le reste, je pense que c'est pas quelque chose de très intéressant. Ce qui serait plus intéressant, c'est que les gens prennent leur traitement à la durée prescrite. En plus, alors, je ne sais pas si vous savez, si vous avez été jamais aux États-Unis voir. Les pays dans lesquels ça existe sont plutôt en train de revenir en arrière, bon. Notamment pour des raisons d'erreurs. Parce que j'ai dans mon bureau toute une série de petites boîtes que j'ai récupérées chez mes amis américains, des petites boîtes oranges dans lesquelles on vous met 30 comprimés. Alors, en gros, vous avez une ordonnance de 30, donc l'idée, c'est de prendre une boîte de 30, de défaire les comprimés dans les boîtes de 30 et de vous mettre dans un flacon de 30. Parce qu'en fait, c'est la boîte. Si votre prescription, c'est de 30 jours, qu'on vous donne 30 jours décongelés, mis dans un petit container ou une boîte préfabriquée de 30, ça sera quand même 30 comprimés. Bon. Et vous ne les observerez pas davantage. D'ailleurs, les Américains ne sont pas des grands observeurs de traitement non plus. Et alors, ce qu'il y a, c'est ces petites boîtes oranges qui sont les petits containers, sont tous pareils. Ont des petites étiquettes noires avec le nom du produit en DCI. Et un risque d'erreur majeur. Quand dans l'armoire à pharmacie, vous n'aurez que une série de petits containers, tous pareils, avec toutes leurs petites étiquettes, avec hydro, cordo, machin, etc., dessus, des noms très, très... Parce qu'il n'y a pas de nom de marque, ça fait partie du truc. Donc, je crains qu'il y ait des erreurs de pharmaciens, qui peut très bien se tromper dans le bulk, en passant du bulk au container, et aussi du... Donc je suis plutôt réticent. D'ailleurs, la profession, l'ordre des médecins, Madame Adnaud, a dit que c'était une mauvaise idée. Des pharmaciens a dit que c'était une mauvaise idée. Je pense que tout le monde trouve que c'est une mauvaise idée. Bon, c'est une idée qui, encore une fois, fait bon sens à bon marché. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été prise. Je ne pense pas qu'elle dépassera le stade expérimental et je ne pense pas qu'elle dépassera le cadre très précis de ces quelques antibiotiques pour lesquels elle va s'appliquer.
Mesdames, est-ce que vous avez un avis avant que je donne la parole au public ?
Je pense que pour un certain nombre de médicaments, et notamment pour tout ce qui est antibiotique, à la différence de mon voisin, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, parce que si un traitement doit comprendre 30 comprimés et que la boîte en comprend 45 et qu'il en reste 15...
Il n'y a qu'une boîte de 45 comprimés.
Attendez, je termine. Oui. Donc je pense que pour certains médicaments, ça peut être intéressant, mais il y a un gros problème, c'est que je crois que donner... des médicaments à l'unité, ça suppose qu'il n'y a pas de boîte. S'il n'y a pas de boîte, ça suppose qu'il n'y a pas de notice pharmaceutique. Et je crois que l'information, qui me semble être quelque chose de très important, hein, si on veut éduquer le citoyen, l'usager, le malade, comme vous le voudrez l'appeler, ça passe aussi par qu'il apprenne ce qu'il est en train de prendre, qu'il se renseigne sur les effets, qu'il se renseigne sur les indications, sur les posologies. Et lui donner des médicaments tout seul, sans explication, alors il faudrait inventer un système pour que ça soit assorti d'une notice pharmaceutique. Sinon, c'est de nouveau l'infantiliser. C'est lui dire, voilà, prenez ça et puis cherchez pas à comprendre.
Il n'y a pas de boîte à 45. Hein. C'est-à-dire que les conditionnements... Même quand on a créé la commission de transparence en 1976, c'est M. Barrault qui a créé ça en 1976, le but, c'était vérifier les tailles des boîtes. Pour éviter qu'il y ait un fabricant à 30, l'autre à 33, l'autre à 40, l'autre à 40. Donc, les conditionnements sont vérifiés. Et aujourd'hui encore, dans les avis de transparence, vous avez un point qui est taille du conditionnement adapté à la prescription. Donc, c'est quelque chose qui est vérifié par l'État. Le nombre de comprimés dans une boîte est fixé par l'État. Bon, ça, dire que c'est des choses... Bon, et c'est 30 comprimés... Il y a eu un moment, on est passé d'ailleurs, il y a eu une jurisprudence à 28, 4 semaines, on est passé à 30 dans certaines. Et l'État pousse même, paradoxalement, pousse même les boîtes de 90. C'est-à-dire que l'État, dans les pathologies chroniques, encourage les gros conditionnements de 90, un peu à l'inverse des pharmaciens, parce que la marge qu'on fait sur une boîte de 90 est inférieure à la marge qu'on fait sur 3 boîtes de 30. De même, le prix de la boîte de 90 est inférieur à 3 fois la boîte de 30. Donc, dans le même temps où l'État fait la vente à l'unité, il encourage avec un but, avec un objectif conventionnel, signé, la promotion des conditionnements de 3 mois de 90 pour quelques pathologies, l'hypertension artérielle, le cholestérol, et puis je ne sais plus quoi, le diabète, les ADO.
Patricia Prévost, et après je donne mon micro. Est-ce que vous avez un sentiment par rapport à ça ? Une position ?
Non.
D'accord.
Aucun.
Merci pour cette franchise. Bonsoir.
Merci. Chacune des interventions m'inspire des questions ou des remarques. Je ne pensais pas partir là-dessus, mais sur le conditionnement, il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais pharmacien d'officine. Donc je suis très sensible à ces questions parce que ça me ramène à une pratique qui c'est déjà lointain. Mais premièrement, les conditionnements, effectivement, comme le disait le professeur Le Pen, sont des conditionnements qui sont par 30, par 60, par 90 pour des pathologies chroniques. Et étrangement, les antibiotiques, leur conditionnement est approuvé pour la posologie la plus commune, c'est-à-dire ce sont des boîtes de 7, de 14. Et donc, s'il y a observance, normalement, il ne doit pas rester 2 ou 3 ou 4 comprimés dans la boîte. Les boîtes sont faites pour, et l'État approuve des conditionnements qui sont adaptés à la posologie qui devrait être la plus fréquemment prescrite.
Qui n'est pas pour nécessairement en adéquation avec la prescription réelle.
Alors, ça, c'est... Oui, mais là, dans l'AMM, il y a une posologie, il y a une durée de traitement, et la boîte, le conditionnement correspond à la durée, à la posologie la plus probable. Alors, je voulais insister sur un point, c'est qu'on parle de monopole. Faut quand même souvent rappeler au grand public que c'est un monopole de compétences, que les pharmaciens font au moins 6 ans d'études, et au minimum 6 ans d'études, parce que selon la branche qu'ils vont choisir, il n'y a pas que le pharmacien d'officine, il y a le pharmacien hospitalier qui va faire 4 ans d'internat, il y a le pharmacien industriel qui va faire 4 ans aussi après de spécialisation, il y a le biologiste qui va faire 4 ans, etc. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près la même durée d'études que pour les médecins, ou enfin, c'est le professionnel du médicament, et c'est un monopole de compétences. Et ces deux professions sont vraiment complémentaires. Elles sont indispensables l'une à l'autre, et historiquement, il faut se souvenir que ça a créé tellement de problèmes dans l'histoire, le fait qu'on soit jugé parti prescripteur et vendeur du remède, qu'au fil des siècles, ces deux métiers se sont dissociés pour la sécurité du patient. Je voulais partir en fait sur les EHPAD parce que je voulais rappeler qu'au mois de novembre, il y a eu des réunions dans chacun des départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, avec les représentants des EHPAD, donc directeurs, médecins coordonnateurs, personnel soignant, etc., sur la gestion des risques en EHPAD, et où on est intervenu notamment sur le médicament. Et pour ça rejoint une réflexion que vous avez faite, il n'y a pas beaucoup d'accidents avec le médicament, etc. Alors, 80% de la population, à peu près, moi je n'ai pas le chiffre exact, mais 80% des médicaments sont consommés par les personnes âgées. Quand il y a un accident médicamenteux chez une personne âgée, ou une chute en EHPAD, ou un décès inexpliqué, etc., on ne va pas faire une analyse de sang pour savoir s'il y a eu une erreur médicamenteuse, etc. On ne va pas explorer. Or, on sait que, par exemple, il y a beaucoup d'idées reçues dans les pratiques. Mais je ne parle pas des EHPAD en particulier, mais chez la personne âgée. On va broyer des médicaments en imaginant qu'un comprimé sécable est broyable. C'est faux. On va donner une forme injectable, on va la faire boire. C'est des fois absolument pas adapté, c'est même dangereux. On va penser que le générique est broyable parce que la molécule originale est broyable, ou vice-versa. C'est faux. Et là, donc, toute cette population qui est la principale consommatrice de médicaments est exposée à des risques qui, à mon avis, sont sous-estimés, et faute de moyens, faute de personnel, faute de formation du personnel, ces risques sont présents, et il faut améliorer les pratiques et la prise en charge médicamenteuse de la personne âgée, parce que les médicaments s'adressent essentiellement à eux. Vous avez peut-être quelque chose à dire, parce que j'avais question à poser après.
Non, mais c'est pour aller dans votre sens. Je pense effectivement que nous avons en France un problème, mais pas qu'en France, dans tous les pays, de surmédicalisation des personnes âgées, de consommation excessive pharmaceutique chez les personnes âgées et très âgées. Vraisemblablement, enfin, il y a plusieurs causes à ça. Une des causes, c'est la fragmentation de la prise en charge. C'est-à-dire que l'urologue va traiter le cancer de la prostate, le pneumologue va traiter un petit peu la difficulté respiratoire, le psychiatre va traiter le fait qu'elle perd un petit peu la tête et mettre un petit peu un vasodilateur périphérique pour l'aider. Et bien sûr, il y aura de la tension artérielle parce que son âge est normal. Elle fera un peu de cholestérol, mais on va se dire... Et finalement, on va traiter un peu comme si elle était jeune, dans une perspective assez courte, en accumulant les prises en charge et sans réel chef d'orchestre qui hiérarchise. Par exemple, aller traiter avec des alpha-bloqueurs un cancer de la prostate chez un sujet de 90 ans ou 85 ans. Mais ça se fait. Ça se fait parce que l'urologue va être considéré comme une faute déontologique de ne pas traiter un malade qui vient. Bon. Donc c'est vrai que nous avons un problème, disons, d'organisation, de la prise en charge des personnes très âgées. Alors bon, je crois que ça passera là par un coordinateur, un care, ce que les Américains appellent... Il y a un nom pour ça, le care coordinator, enfin, la personne qui est chargée un petit peu de hiérarchiser les prises en charge. Au fond, quel est le problème le plus urgent ? Puis les autres, on verra, après tout, si elle peut vivre comme ça. Bah.
Le médecin coordonnateur ?
Le gériatre, en principe.
Oui, il me semble que cette personne existe là, sans lui forcément donner des noms anglo-saxons. Le médecin gériatre est là. Et je crois que, malheureusement ou heureusement, on ne connaît pas tout du vieillissement aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est sans doute complexe à soigner et à prendre en charge. Le médecin généraliste aussi, je pense, c'est prendre un patient dans sa globalité et donc peut jouer ce rôle de coordonnateur.
Oui, aujourd'hui...
Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que... Mais je pense que vous parliez d'EHPAD. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que les ordonnances les plus longues, elles sont plutôt à domicile qu'en EHPAD. C'est plus facile de faire baisser un nombre de médicaments en EHPAD. Et puis, par rapport à, justement, l'observance et l'adaptation selon la galénique du médicament, bon, en EHPAD, en général, les infirmières maîtrisent quand même ça. Et puis, on se forme pour, mais à domicile, c'est vraiment là où on voit des choses un peu aberrantes. L'autre jour, je suis allée en visite chez une personne âgée qui est justement sous Préviscan. Et en fait, j'ai retrouvé... parce que l'intérêt du domicile, d'ailleurs, ça, on en faisait plus... Enfin, les anciens médecins en faisaient plus et on en fait de moins en moins. Et l'intérêt d'aller à domicile, c'est aussi de voir comment les gens vivent et ce qu'ils ont comme médicaments chez eux. Et le monsieur en question, il avait un sac plein de Préviscan. C'était incroyable. Et c'est vrai que je suis la première fautive dans l'histoire parce que le renouvellement de médicaments, j'ai toujours marqué Préviscan, par exemple, un par jour selon protocole, parce que bon, c'est l'infirmière qui distribuait. Et on adaptait la posologie du traitement selon les résultats des prises de sang, évidemment. Mais du coup, au lieu, il n'en prenait jamais un par jour, il en prenait un quart, un demi. Et du coup, il restait des boîtes. Et à chaque fois, la pharmacie renouvelait. Donc, ce monsieur, il avait 20 boîtes de Préviscan chez lui. Voilà. En EHPAD, on n'a pas ça. On n'a pas de stock en EHPAD. Très peu. Donc,
pour l'instant. Parce qu'il est question de créer
Merci.
Des pharmacies.
Oui, sur les officines, je voulais apporter des précisions régionales qui montrent qu'effectivement, le nombre des officines diminue, mais de façon importante, parce qu'en 2002, il y avait dans la région, de mémoire, 702 pharmacies, et en 2012, il y en avait 674. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Alors, ça permet de consolider ce qui reste, mais globalement, les chiffres, puisque je suis dans une administration qui recueille chaque année obligatoirement les chiffres d'affaires de toutes les officines, c'est vrai qu'il y a une baisse nette depuis 2 ans. Depuis 2 ans surtout.
Alors, c'est très intéressant parce qu'on on part de 22 500 officines, actuellement, 22 400 très exactement. Alors la LFSS 2008 ou 2009 a révisé les critères. Et donc aujourd'hui, le critère, c'est une officine pour 3 500 habitants au-delà de, pour toute commune supérieure à 2 500 habitants. Donc, ça nous amènerait à un chiffre d'environ 17 000 officines, 17 500. Donc autrement dit, l'État a planifié la mort, programmé l'apostose de 5000 officines. Alors, les syndicats se battent là-dessus. Ils veulent bien un atterrissage, mais un atterrissage en douceur. Et par ailleurs, on aimerait que l'existence de l'officine compense un peu la baisse de la démographie médicale. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un désert total, que si le médecin part, et il part dans les zones rurales aujourd'hui, l'officine puisse être un élément de contact avec le monde de la santé. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Et entre, si vous voulez, baisse programmée, on a 22 500 officines, une officine pour 300 habitants, je sais plus, enfin, le plus grand nombre d'officines en Europe, on a trop. Et passer et régler le chiffre, faire du fine-tuning sans tomber dans la désertification officinale, ça va pas être simple. Et je crains que ça soit ça qui se passe.
Si vous permettez.
Une dernière. Non, mais allez-y, vous avez.
Sur les officines, la loi a évolué pour permettre une redistribution, une répartition géographique, notamment les transferts qui autrefois étaient autorisés au sein d'une même commune. Mais on a vu dans notre région une officine qui a été autorisée à transférer d'Angoulême, Soyaux, en Guyane. On peut transférer où l'on veut. Donc ça permet une meilleure répartition.
On peut transférer dans les zones sous-denses. Alors il y a une cartographie administrative.
Il y a des règles. Il y a des règles de population à respecter, bien sûr. Maintenant, je voulais dire aussi qu'au niveau de la loi HPST, les missions du pharmacien, pour la première fois dans la loi, ont été définies en 2009. Je ne suis pas sûr que dans votre présentation, s'il y avait eu des pharmaciens ici, ils aient apprécier le fait de voir le portage à domicile des médicaments comme nouvelle mission. Parce que ça, c'est très ancien. Et le pharmacien d'officine avoir comme mission de coursier,
C'est eux qui le proposent. Hein.
Non, mais ça fait longtemps que ça existe. Et que c'est dans la loi depuis une dizaine ou une quinzaine d'années.
Oui,
mais ça, c'est codifié depuis longtemps et ça se fait, il n'y a pas de problème.
Donc
je crois qu'il cherche autre chose. Il cherche effectivement à être reconnu comme professionnel de santé. Vraiment comme professionnel de santé. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une part, une intégration, une part d'honoraires qui s'inscrit dans la rémunération des pharmaciens. Et avec la convention qui va évoluer, la convention avec l'assurance maladie, c'est petit à petit des honoraires qui vont prendre le pas sur la rémunération à la boîte. Et c'est donc plus... vraiment, depuis la loi HPST, les pharmaciens sont... considérés comme des professionnels à part entière. Et le premier monde de leur mission, ce n'est pas le portage des médicaments à domicile, c'est participer aux soins de premier recours. C'est ça le texte de la loi HPST dans la définition des missions du pharmacien. Donc,
Non, mais je connais bien ce texte et j'ai discuté tout ça avec les syndicats de pharmaciens. Bon, le portage à domicile, c'est une mission qui n'est pas complètement remplie aujourd'hui. Ils sont d'accord là-dessus. Bon, il faut le faire. C'est, d'ailleurs, comme vous le disiez, c'est intéressant d'aller voir les patients à domicile. Quelque chose qui, effectivement, ne se fait plus. Hein. Dans les pays développés, on ne va plus voir le patient. Aux États-Unis, on n'y va plus. En France, on n'y va plus. On paye la visite, même prix que la consultation. On a aligné le C sur le V. Et aujourd'hui, le nombre de visites à domicile le V a chuté de manière très, très forte, statistiquement, depuis une dizaine d'années. Donc, ça, c'est une évolution absolument... le médecin qui va vers son patient, aujourd'hui, c'est le patient qui va vers le médecin. Bon, l'autre phénomène tout à fait intéressant et relativement trompeur, c'est le regroupement. Alors, c'est vrai aujourd'hui qu'on passe d'une économie que nous appelions, enfin, le modèle, c'était solo, fee-for-service, hein, c'est des gens isolés, une économie de petits producteurs indépendants, que ce soit le médecin dans son cabinet, hein, c'est le médecin dans son cabinet, ou que ce soit le pharmacien. Alors, on regroupe. C'est vrai qu'il y a toute une série, et il y a même ce qu'on appelle les nouveaux modes de rémunération, les NMR, donc qui sont des modes de rémunération votés et qui sont... Il y a une enveloppe qui n'est pas négligeable, qui est inclue pour tout les restructurations, c'est à hauteur de 3 milliards dans la loi, y compris l'hôpital. Et donc, pour financer des structures. Dans ces 3 milliards, enfin, ces nouveaux modes de rémunération ne rémunéreront les médecins, mais pas pour l'acte, mais pour leur participation à une structure, donc pour une coordination, pour une secrétaire, pour des soins, en tant que salarié. Hein. Donc créer des entreprises de santé qui aient une part d'activité rémunérée à l'activité, et puis une part de financement, qui soit une part de financement forfaitaire pour encourager les structures. Le problème de ça, c'est formidable, c'est très bien, ça change... C'est un exercice collectif. Aujourd'hui, les jeunes médecins s'imaginent assez peu exercer tout seul, surtout dans la zone rurale. Le problème, c'est que le regroupement n'est pas une solution. C'est une solution limitée au problème de désertification. C'est-à-dire, si vous regroupez des médecins, vous allongez la distance qu'il y a entre le patient et le médecin. Et les patients futurs devront prendre la voiture pour aller voir les médecins. Ils devront rouler soit en ambulance, en VSL, soit avec la famille. Mais de toute manière, et le regroupement des médecins accentue le phénomène, on va aller vers des maisons médicales, hein, pluridisciplinaires ou monodisciplinaires. Il y en a dans la région, hein, j'en ai visité, des maisons médicales pluridisciplinaires, il y en a même de célèbres. Et ça se traduit par plus de confort, plus de permanence des soins, plus de confort pour les professionnels, des services additionnels, il y a des collègues, il y a, etc., mais par une distance moyenne en temps et en kilométrage qui augmente.
Merci. J'aurais une courte remarque et une question. J'ai découvert une nouvelle application du pendule. Je pense que c'est un outil qu'on doit finalement sous-estimer. Et si vous avez un peu de temps, restez sur les marchés du Poitou pour le week-end. Il n'est pas rare de voir des individus, au moins un individu, qui choisit son poisson avec un pendule. Alors, si je raconte ça, c'est... Pour faire un petit clin d'œil à Didier, on a évoqué que cette thématique au sens large pourrait être un sujet tout à fait intéressant pour Mendes France. Je ferme la parenthèse. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est une question à l'économiste. Vous avez évoqué en fin de présentation ces nouvelles protéines recombinantes, anticorps, etc., qui sont... qui change complètement les molécules utilisables aujourd'hui. C'est bon, depuis une vingtaine d'années que l'on peut utiliser ces molécules. Les traitements coûtent extrêmement cher. Puisqu'un anti-TNF ou des anticorps récepteurs solubles, c'est, allez, on va dire, une PR 20-30 000 euros par an, quelque chose comme ça, versus des traitements à quelques centaines d'euros par an. Alors, je vous pose la question, et vraiment, j'en profite, je suis ravi, ça fait partie, oui, des questions que vous n'avez jamais osé poser. Je suis intéressé par... Je suis chercheur, j'anime un laboratoire qui travaille sur l'inflammation chronique et on travaille sur ces molécules. On est intéressé par ces molécules. On a même développé des brevets avec l'université sur ces molécules. Et on pense qu'elles vont être très utiles. Mais je n'arrive pas aujourd'hui, c'est vraiment la boîte noire pour moi, de savoir à terme ce que l'on va faire de ces molécules. Parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Évoqué hier dans la réunion qu'il y a eu sur une première réunion sur le médicament, bon, elles peuvent avoir des effets secondaires, mais comment les intégrer dans une politique de santé ?
Vous voulez dire au point économique ?
D'un point de vue économique, oui. Puisque c'est des molécules, bon, a fortiori pour des maladies chroniques, inflammatoires chroniques, des cancers, bon, c'est des traitements qui vont durer un certain nombre d'années, et voilà.
Si vous voulez, d'abord, un constat. C'est-à-dire que ces molécules existent effectivement depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Les grandes molécules dans votre domaine, les grands anti-TNF, anti-TNF-alpha, Umbrel, Remiquet, Dumira, etc., ça existe depuis maintenant. Les dépenses de santé, de médicaments, baissent. Donc, si vous voulez, jusqu'à présent, on a réussi à faire en sorte, en faisant des économies sur le reste, en faisant des économies sur grâce au générique, 1 milliard d'économies par an que nous amène le générique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a eu une explosion. C'est aussi pareil avec la démographie. Regardons les choses. On nous dit les vieux coûtent cher. On a une croissance de dépenses de santé. La population française vieillit en ce moment. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Les dépenses de santé croissent d'environ 2 à 2,5% par an. Dans 1950, la population était extrêmement jeune, on était en plein baby boom, et la dépense de santé croissait à 10% ou 15% par an. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas corrélées de manière mécanique. Alors pourquoi ? Parce que dans les années 50, la population était jeune, mais on construisait des hôpitaux partout, on fermait les salles communes, on faisait des chambres individuelles, on recrutait 9000 médecins, 8000 médecins par an qu'on recrutait. Aujourd'hui, on a recruté à peu près 3500. On était dans une espèce d'hybris. Sanitaire, on dépensait des milliards, il y avait une croissance économique, on était dans la trente glorieuse, on était riches, on dépensait. Pas pour des besoins, parce qu'on était riches, on dépensait. Pas forcément quand on était malade, on était riches. On dépensait parce qu'on était riches, pas parce qu'on était malade. On n'était pas très malade à l'époque. Enfin, on était plus malade qu'aujourd'hui. Enfin, bon, l'espérance de vie était plus faible, mais la population était plus jeune. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On a une population qui est un peu plus vieillissante. On a des techniques qui sont beaucoup plus coûteuses. On a une situation économique qui est beaucoup moins favorable. Donc, on se débrouille pour faire des plans d'économie. Jusqu'à présent, on a baissé le prix de ces produits. Hein, ils ont été baissés. Mais jusqu'à présent, on arrive à les financer en se débrouillant, en faisant des économies à droite à gauche. Je dirais deux choses. Premièrement, les coûts sont actuels, ils ne sont pas inéluctables, ils ne sont pas éternels. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours a été mis sur le marché le premier biosimilaire d'infliximab de Remicade. Il va y avoir une baisse des prix sur cette molécule qui a été historique à un moment d'environ 20, 30, 40% qui va arriver. Donc on va commencer à encaisser, comme sur le générique, à un moindre degré, mais sur des coûts beaucoup plus importants. Ça sera peut-être moins en pourcentage, mais les coûts de départ sont beaucoup plus importants. Donc la somme, à la fin, va être importante. On va commencer à encaisser des bénéfices. D'ici 2019, tous les médicaments actuellement les plus chers, c'est-à-dire Avastin, Umbrel, Remicade, Humira, les érythropoïétines, les facteurs de croissance hématopoïétique, les produits de la DMLA, tous jusqu'en 2019 vont petit à petit, les uns après les autres, on a la liste des brevets, on s'est tombé. Donc il y a, disons, un potentiel de ce point de vue-là. Et puis je dirais autre chose. En France, la doctrine que j'ai évoquée de séparation va faire en sorte que s'il y a un bénéfice prouvé, réel, minimal, peut-être on peut redéfinir le bénéfice. Par exemple, en matière de cancérologie, il y a quelques années, on considérait que dès lors qu'il y avait un peu de survie globale, c'était une innovation majeure, on payait sans problème. Aujourd'hui, on considère que, bon, en oncologie, une molécule qui arrive en deuxième, troisième intention, qui est très chère, elle doit au moins augmenter la médiane de survie de 6 mois. S'il n'y a pas 6 mois, on va dire que, OK, mais ce n'est pas significatif. Donc, si vous voulez, on va demander un bénéfice accru au traitement. Ça, c'est actuel. Hein. On a étudié ça. Et à partir du moment où il y aura un bénéfice, et ce n'est pas si courant que ça, le pays paiera. Le pays paiera la survie de ses patients. L'idée qu'aujourd'hui, on va laisser tomber les vieux pour lesquels on a des traitements efficaces ou des cancéreux pour lesquels on a des traitements efficaces parce que le PIB ne permet pas, cette idée n'est pas aujourd'hui une idée correcte. On fera des économies ailleurs, mais on paiera ça. Ça ne veut pas dire qu'on le fera facilement, mais on paiera. On n'est pas en France. En France, aujourd'hui, ça peut changer, la doctrine va changer, dans l'idée de dire, voilà, monsieur, vous êtes très malade, voilà un médicament, ce médicament, si je vous le donne, vous allez gagner 1 an de vie, excusez-nous, il est trop cher, on va au revoir, et puis bonne chance, et on se retrouvera un de ces jours là-haut, pour l'instant, je ne vous soigne pas parce que c'est trop cher. Ce discours est intenable en France, pour une raison simple qui est aussi dans mes slides, c'est que le prix est fixé par l'État et il est très compliqué pour l'État d'aller dire à quelqu'un ce traitement est trop cher alors que c'est lui-même qui a fixé le prix. La première chose que feront les patients et les associations de patients, c'est de dire, cher monsieur, je ne veux pas entendre l'idée qu'un traitement est trop cher dès lors que c'est vous qui fixez le prix. Bon, et donc là, autrement dit, l'angoisse qui nous prend tous, parce que cette angoisse de voir des coûts qui croissent et puis se dire est-ce qu'on arrivera, je crois que nous avons les moyens, je suis optimiste, hein, je crois qu'on a les moyens, un, il va y avoir des gains de productivité, deux, les règles de bon usage, de cibler, en plus ces traitements c'est quand même des petites populations, c'est très cher mais pour peu de patients, bon, ça pourrait être une grande population. Bon, pour l'instant, on va limiter, on va dire, on va les mettre en deuxième après échec de 3 lignes de traitement avec des patients qui ont. Bon, on va aussi faire les traitements ciblés. C'est-à-dire, on va les réserver aux patients qui ont la mutation BCRA1, la mutation BRAF V602, la mutation, etc. On a plein de trucs pour essayer de segmenter un peu les populations. Ben, on en connaît bien, et ça augmente beaucoup ce genre de choses. Segmenter les populations, faire des gains de productivité, et at the end of the day, payer.
C'est un peu en contradiction, excusez-moi, professeur, avec ce que disait Monsieur Beau hier. Vous vous souvenez,
oui,
il disait que une des personnes hier qui est intervenue, un médecin, lors de la table ronde, disait que jusqu'à prescripteur, disait qu'il avait dû passer devant une commission parce
oui,
que normalement il avait droit de traiter 10 patients. C'était très cher, il a traité 11 et il s'est fait taper sur les doigts. Donc.
Oui. Non, mais il y a deux choses. Que ça complique la vie des professionnels, qu'un médecin hospitalier, là je suis un petit peu méchant, mais qu'un médecin hospitalier, un chef de service hospitalier qui avait l'habitude de faire ce qu'il voulait, bon, doit aujourd'hui aller au Comédime demander pour traiter 11 patients, négocier, etc. Bon, ça c'est vrai. La vie sera difficile. L'avis des médecins va être difficile. Maintenant, ce que je ne crois pas, qu'on va sacrifier les patients dès lors qu'on a un bénéfice significatif, que ça complique la vie des patients, que des médecins, que ça entraîne un surcroît de travail avec les médecins, que ça entraîne du travail administratif, parce qu'on demande la justification, on demande des preuves, on demande des suivis, on demande des trucs, et que les médecins s'en plaignent beaucoup de cette inflation du travail administratif, et qu'ils s'en plaignent peut-être à juste raison, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'ils s'en plaignent, ça c'est vrai. Bon, et je crois qu'effectivement, on va être dans un monde de la gestion. Dans un monde dans lequel il y aura un gestionnaire qui va surveiller. Et ce qu'était vous, à la fois dispensateur de soins et aussi juge en dernier sort, il y a une relation. Alors ça, c'est un vrai changement culturel. Hein. Il faut demander l'autorisation, il faut obtenir les choses, etc., se justifier. Maintenant, pour les patients, du point de vue du patient, va-t-on laisser mourir les personnes âgées sous prétexte que c'est trop cher ? Je ne crois pas.
Oui, moi, je voulais faire un commentaire, reprendre ce que disait Jean-Claude Lecroix à l'instant. Je ne sais pas si, voilà, je parle du point de vue du médiateur que je suis, je ne sais pas si vous imaginez le côté monstrueux pour des gens non informés de ce que représente une complexité extrême de ce système qui, en l'espace de 20 ans, est passé du médecin de famille qu'on venait voir, le pharmacien était à vol d'oiseau, bref, voilà. Donc il y a un schéma qui est en train d'évoluer. Ce n'est pas le problème qu'il évolue, le schéma. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Vous le faites, on essaie de le faire, mais je crois que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai une expérience. Derrière ce mur, il y a une exposition qui s'appelle « Le cerveau à tous les âges ». Savez-vous ce qui se passe le dimanche ? Vous avez des directeurs et des responsables d'EHPAD qui viennent, ils achètent leurs tickets, ils viennent s'informer et se former. Pourquoi ? Parce qu'ils le disent tous, moi j'ai été maire d'une commune qui avait un EHPAD, la directrice faisait ses 70 heures par semaine, ça faisait 10 ans qu'elle était là, elle n'avait pas eu une seule minute de formation. Et les choses sont allées tellement vite en termes de techno et en termes d'usage qu'ils ne peuvent plus suivre. Ils ont tous le nez collé aux factures, au guidon, je ne sais. Premier point. Deuxième point sur la petite pique de Jean-Claude sur l'histoire du pendule. Il y a 3 ans, on avait fait une université internationale sous l'égide de notre ami Edgar Morin. Et à l'issue de tout ça, donc il y avait une quarantaine de nationalités, il y a des recommandations qui avaient été faites à la suite des débats. Et deux d'entre elles étaient de prendre en compte ou de reprendre en compte politiquement les dimensions territoriales. Et les deuxièmes, sous peine de voir se lever des révoltes, être attentif aux subjectivités et au silence des communautés. Donc ça, c'était nos amis sud-américains en particulier qui en parlaient. Donc moi, ce que je dis simplement, et j'aimerais peut-être avoir votre sentiment là-dessus, de la prévention, il y en a beaucoup. Des politiques qui sont en évolution permanente, il y en a pas mal. Moi, je me demande, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on monte des opérations sur la santé, je me demande où est la, comment dire, au-delà du discours, où est la véritable attention de nos institutions de santé à cet écart qui est en train de se creuser entre la complexité de l'information et la réalité de leur vie ou la réalité de leur proximité ou de leur communauté. La question de la subjectivité, elle renvoie à tout un tas de problèmes, d'autres problèmes, et méfions-nous par rapport à ça, et ça c'est un discours qui est constant et qui est pas lié qu'à la santé. On le retrouve sur l'énergie, on l'a retrouvé sur l'eau l'an dernier, qui n'y est pas, effectivement, on parlait hier de charlatanisme, donc ça c'est un nom qui est un peu fort, mais qui n'y est pas comme ça des économies ou des productions parallèles qui émergent et qui vendent de la poudre de perlimpinpin sans qu'on ait aucune garantie. Donc là, il y a un juste milieu à trouver, mais ce juste milieu, il ne peut être trouvé que s'il y a des politiques d'information qui aillent au-delà de la simple communication, des plaquettes de com, de la prévention bien faite, etc. etc. Donc je crois qu'il y a un aggiornamento des politiques d'information à faire. C'est pas vrai qu'en France, moi je vais de temps en temps au Walgreens de Bâton Rouge ou de Lafayette en Louisiane, je vois ce qui se passe. Hein. C'est clair. Si on veut ça, à mon avis, on va avoir des problèmes. Donc,
Non, allez-y, parce que c'est un problème qui me touche beaucoup, cette histoire.
Oui. Moi, je voulais réagir à ce que disait Didier. Effectivement, lorsqu'on parle d'éducation, de formation, c'est peut-être là que se jouent énormément de choses. Tout à l'heure en aparté, je signalais à Jean-Claude qu'on parlait de notice d'information. Qui lit aujourd'hui une notice d'information ? Vous achetez un iPad, vous ne lisez pas la notice d'information. Vous achetez une voiture, vous ne lisez pas la notice d'information. Et voilà, et un médicament, vous ne l'achetez quasiment même plus.
Sur les médicaments, elles sont lues, hein. Ça c'est fréquent. Enfin,
par une certaine génération, peut-être, par une
c'est possible. Par celle de nos parents, milieux sociaux et par certains milieux culturels.
Voilà, fait, tout à fait. Alors, une position par rapport à la consommation vis-à-vis du médicament et de la santé, est-ce que justement le manque d'attention du public, du citoyen, ne vient pas du fait que tout est gratuit? Est-ce que le tout gratuit ne démobilise pas l'attention et la recherche d'informations?
Alors, moi, si je peux répondre sur cette question, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure à propos des médicaments qui sont achetés, qui sont amenés chez soi et qui ne sont pas consommés. La première réaction qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ah ben voilà, ça c'est parce que c'est gratuit, les gens en profitent pour se constituer des stocks et ça les déresponsabilise, etc. Or, si c'était vrai, s'il n'y avait que la dimension économique, effectivement, on n'observerait ça qu'avec les médicaments prescrits. Or, les médicaments achetés en automédication font l'objet du même traitement, c'est-à-dire qu'ils sont aussi ramenés chez soi et la personne le laisse, et très souvent, elle ne le prend pas. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a d'autres mécanismes qui expliquent ces phénomènes, et en particulier, il y a une sorte de... peut-être d'assimilation symbolique entre l'espace domestique et l'espace corporel. Hein. Ça, c'est une constante, d'ailleurs, dans les sociétés humaines, dans toutes les cultures. C'est le lien qui est fait entre l'espace de vie, entre la maison et le corps. Et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le fait de faire pénétrer un médicament dans l'espace domestique, c'est quelque part le faire déjà pénétrer dans l'espace corporel. Donc, il n'y a presque plus besoin de le prendre. Donc ça, ce sont des logiques symboliques qu'il faut comprendre et qui complètent hein, les explications économiques. Mais c'est vrai que l'économique n'explique pas tout à lui tout seul.
Je crois qu'en économie... Le prix, mais c'est un sujet important, ça, hein, parce qu'on voit que tous les professionnels de santé et depuis tout temps, hein, quand on regarde un petit peu pour un truc que j'ai écrit en ce moment, j'ai regardé le concours médical en 1850, et les gens parce que l'élaboration des tarifs médicaux, et ils se plaignaient un petit peu de la dévalorisation de l'activité médicale. Il y a donc c'est pas d'hier. Le prix, c'est un moyen d'accès et puis c'est un reflet de valeur. Et pas de valeur économique marchande, aussi de valeur symbolique. Et donc, on est à la fois ce qu'il faudrait à la limite, c'est un prix qui signifie une valeur symbolique, mais qui ne soit pas un obstacle par ailleurs. Bon. Et donc, les professionnels de santé, d'ailleurs, n'ont jamais été. Ils sont plus hostiles à l'idée du soin gratuit qu'à l'idée du soin remboursé. C'est-à-dire que le soin remboursé est un soin que vous payez, vous êtes remboursé, donc, mais vous avez payé quelque chose. Il y a plus d'opposition, et c'est pour ça qu'en ce moment, Marisol discute beaucoup du tiers-payant généralisé. Bon, et ça, c'est le tiers-payant agace plus que le remboursement. Si vous passez le remboursement à 100%, vous aurez moins d'opposition que si vous dites qu'il y a un tiers payant. Bon. Pourquoi ? Parce que se perd dans cette histoire quelque chose qui manifeste l'importance, la valeur, mais la valeur non pas en termes économiques, mais en termes, disons, symboliques, parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop dans la société mesurer les valeurs symboliques autrement qu'en unité monétaire. Bon, c'est une chose. Je suis assez sensible à votre remarque. Il y a quelque chose qui est assez important, c'est le déficit, je crois, d'explications et de discours, même politiques, sur la santé. C'est-à-dire qu'il faut voir que dans les débats politiques, par exemple, chaque année, à chaque 5 ans maintenant, chaque 7 ans avant, on se disait tiens, il va y avoir une élection présidentielle, les problèmes de santé sont tellement importants que ça va être le problème majeur de la campagne électorale. Résultat, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, et puis ensuite, le gouvernement arrive, fait ce qu'il veut, il négocie avec les professionnels, il a 3 projets, il en fait un, il laisse tomber les 2, etc. Bon. Et donc il y a, je pense, une réelle difficulté à parler des problèmes de protection sociale et les problèmes d'économie de la santé ou d'assurance maladie, et de le transformer en objet politique. C'est pour l'administration, c'est soit un objet médical, approprié par les professionnels, soit un objet administratif, c'est jamais ou rarement un objet politique en France. Alors c'est un objet politique manifestement aux États-Unis, On peut pas. C'est même le problème dans l'agenda politique. C'est le problème le numéro un. Obamacare s'est battu là-dessus. Aujourd'hui, il est en train d'encaisser par les dividendes négatifs d'un système qui était conceptuellement intéressant, mais qui se met en place dans des conditions absolument épouvantables. Donc les gens, il va le payer très 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 cher dans ça. Enfin pas lui, parce que maintenant il est hors du jeu. Mais bon, en tout cas, il y a. Mais en France, la question de la politique a été escamotée en 1945 quand un gouvernement dans lequel siégeaient le Parti communiste, le Parti gaulliste et le MRP et la SFIO de l'époque a créé une sécurité sociale sur une base apolitique, sur une base de, disons, d'un consensus très fort, alors que Obama, c'est pas un consensus, c'est un problème politique. Nous, ça a été extrait de la sphère politique. On s'est dit, c'est quelque chose que une grande coalition, qui n'existe pas en France, qui existe en Allemagne, mais qui a existé à l'époque, une grande coalition a mis au point un système de protection sociale qui a changé au fil du temps, mais qui a changé au fil du temps dans un dialogue de la société civile, notamment entre les syndicats et l'administration, non pas dans des termes politiques. On paye ça un peu aujourd'hui, on paye un petit peu. Alors c'était un gros avantage tant que le système marchait bien. On le paye un petit peu aujourd'hui par un déficit de débat quand le système va un peu moins bien et qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il doit continuer selon les lignes de 45 ou est-ce qu'il faut reformuler aujourd'hui une autre philosophie que la philosophie de 45. Est-ce que, par exemple, il faut qu'est-ce qu'on fait de l'assistance? Est-ce qu'on prend en charge les plus démunis mieux? Est-ce qu'on fait de la discrimination positive? Est-ce qu'on étatise le système? Est-ce qu'on crée une agence nationale de santé pour remplacer la CNAM? Qu'est-ce qu'on fait des mutuelles? Qu'est-ce qu'on fait comme panier de soins? Qu'est-ce qu'on rembourse? Qu'est-ce qu'on rembourse pas? Voilà, tout un ensemble de questions sur lesquelles on est assez mal à l'aise pour discuter parce que notre système, et depuis 1945 c'est le cas, on n'a jamais discuté politique sur la politique de santé. La politique de santé a toujours été une politique technocratique, faite par des plans. Le plan de Mme Bachelot, de M. Douste-Blazy, les ordonnances Juppé, les ordonnances Tolade, le plan Seguin, on peut remonter comme ça. Tous ces plans par ordonnance, sans beaucoup de débats politiques, et quand il y a débat politique, toujours entre les quatre experts du PS et de médecins en général, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup, c'est vrai, je le regrette beaucoup, il n'y a pas beaucoup de débats et de présentation des enjeux politiques. Alors, quelquefois, ça affleure sur des questions qui ne sont pas très saines. Par exemple, la question de l'aide médicale gratuite de l'AME, l'aide médicale d'État. Bon, là, mais ce n'est pas très sain que ça affleure sur ce type de problème de la prise en charge des immigrés sans papier. Donc, je regrette beaucoup que... mais ça, je suis assez pessimiste et je pense que dans l'élection présidentielle future, il n'y aura pas plus de débats sur la santé qu'il y en a eu dans les élections présidentielles. C'est dommage parce qu'il y a des enjeux considérable de dire cette question.
Juste un dernier mot avant de laisser le micro à Didier qui vous remerciera sûrement mieux que moi. Mesdames, est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer? Parce que c'est vrai qu'on parlerait jusqu'au petit matin. Est-ce que dans les choses à retenir ou dans les pistes d'avenir, je ne sais pas, est-ce que vous voulez faire passer un dernier message?
Non, message non. J'aurais plein de choses à dire, mais ce n'est pas des messages, donc je ne les dis pas.
D'accord, il va falloir refaire une autre soirée. Hein. Docteur?
Ben oui, moi j'ai entendu parler de la fin du médecin de famille et je dois être complètement ringarde, mais moi je me sens vraiment médecin de famille et je ne pense pas être un cas isolé. Mon associé se définit aussi comme un médecin de famille. C'est vraiment, je pense, le plus important au-delà des histoires de boîtes, de conditionnement, de sous. Tout ça, moi, ne m'intéresse pas tellement en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la médecine. Voilà.
Merci Vincent, merci à toi. Je voulais vous remercier. En t'écoutant, Patricia, je pensais à une pièce qui est des années 70. C'était La solitude du gardien de but au moment du pénalty. Donc je me demande si les médecins généralistes ne sont pas en train de ressentir une grande solitude. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles solidarités à créer. Il y a des outils pour ça, mais c'est surtout sur le plan humain. Mais encore une fois, moi, je leur dis, c'est la question des territoires qui est posée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé dans les politiques actuelles, qui sont extrêmement roboratives et qui mettent les gens dans des petites cases. Donc je vais encore faire du Edgar Morin, relier les choses. Puis pour notre anthropologue, anthropologue. Moi, je voulais dire simplement que cette maison, elle continue son travail pour que les voix isolées puissent avoir plus d'écho et qu'on ne se retrouve pas dans des confrontations stériles comme on a entendu hier matin, où d'un côté il y a les tenants de tel ou tel type de démarche et puis de l'autre ceux qui essaient d'arpenter d'autres champs. Donc je pense que c'est dans ce dialogue et cet équilibre qu'il faut arriver à faire les choses, mais il faut le mettre sur la place publique parce que c'est ce qui manque le plus, c'est oui. Sur la place publique.
Si je peux me permettre quand même juste une précision, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Je crois que l'anthropologue, ce n'est pas son rôle d'essayer de faire connaître d'autres médecines et d'essayer de faire comprendre d'autres rationalités.
Ce n'est pas ce que je disais, moi.
D'accord.
En plus, hein.
Je veux dire, quand vous disiez qu'il faut être dans un entre-deux, moi, je ne suis pas entre-deux, je suis du côté de la rationalité. Simplement, j'essaye de comprendre les systèmes symboliques qui font que tous les êtres humains ne sont pas que des êtres de raison, ils sont aussi des êtres de plein d'autres choses.
Sauf qu'en même temps, mais le débat il est là-dessus, il est méthodologique voire épistémologique. À un moment ou à un autre, la question de l'entre-deux, elle est posée, parce qu'il faut savoir où on met les gens. Les gens, ils sont pas anthropologues ou physiciens, ils sont tout ça et rien de tout ça. Donc des maisons comme les nôtres, elles doivent aussi placer les choses à leur juste niveau. Puis dernier point, pour Claude Le Pen, c'est vrai que quand on vous écoute, et encore vous n'avez pas tout dit, ça donne le vertige. Ça donne le vertige parce que vous partez du prix du cachet, puis vous arrivez aux 50 000 ou aux 100 000 euros de la molécule qui va sortir. Donc ça donne le vertige. Donc pour que les gens arrêtent d'avoir le vertige, là aussi c'est pareil. Vous êtes souvent sur les médias, vous et votre voisine. Je crois qu'il y a une autre façon aussi de présenter les choses et il faut alerter, il faut vraiment alerter. Vous parliez de l'absence de prise de position politique. La semaine dernière, j'étais avec Vincent Payon. Et notre ami Edgar Morin, il a raconté la même chose que vous. Sa communauté, ils sont 1 400 000. Ce n'est pas lui qui la changera, ce n'est pas le suivant et ce n'est pas le suivant. Alors on fait quoi? Donc il y a un moment où des personnalités comme les vôtres, elles doivent dire les choses autrement.
Vous savez, on fait des soirées comme ça, on est optimiste, on travaille, on écrit, perché sur les épaules de nos prédécesseurs, et la société change. C'est pas vrai qu'elle change pas. Alors, dans ce domaine de la protection sociale, ça change très lentement. Il y a c'est un mélange d'intérêts économiques, d'intérêts de passion, d'intérêts culturels, de pratiques, d'habitudes, comme disait l'autre. Donc tout ça fait que on est dans un temps long. Le temps de la protection sociale est un temps long. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on est dans un temps long, alors que le temps de la crise économique qui nous finance est dans un temps très court, ultra court. Sur le choc des temporalités, là, on a plein de problèmes. Le vertige, la seule manière de faire le vertige, c'est de prendre un petit peu de regarder les faits, d'analyser, de sortir de la passion, de se dire, au fond, tout ça, il y a des explications, il y a des séquences de causalité, il y a des rationalités, peut-être limitées, mais réelles. Donc voilà, et puis de pas subir un petit peu le flux médiatique qu'on voit, par exemple, sur cette histoire, je vais pas revenir sur le garde d'asile, mais voilà, typiquement la manière dont on gère mal les histoires. La pilule de droite de génération, typiquement la manière dont on gère mal les histoires. C'est-à-dire qu'on est, parce que là, on est exactement à l'inverse d'une démarche rationnelle, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut voir. On est dans l'émotion, la réaction immédiate, l'empilement des choses. On vous demande une réaction, il faut réagir dans les 3 minutes, alors vous n'avez même pas lu le dossier. Vous savez, les journalistes vous appellent, vous savez, monsieur, très, très très rapide.
Mais non, Vincent, très rapide.
Voilà. Et donc on est dans une espèce d'émotion qui fait que... Quand vous dites, analysons ça, regardons, bon, vous le faites, vous pouvez le faire une fois que le problème est retombé. Donc une fois que le problème ne se pose plus.
Exact.
Donc Hegel le disait, l'oiseau de Minerve se lève à la nuit tombée. Hein. C'est après l'événement qu'on peut réfléchir. Pendant l'événement, on ne peut que malheureusement sentir, subir et s'émouvoir.
Merci en tout cas à vous trois. Et puis je pense qu'il y aura des suites à tout ça. Merci Vincent aussi.